BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, vous êtes dans Tout pour investir, l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi sur BFM Business. On est à la radio, on est à la télé, on est sur le web aussi. Et bonjour à vous qui nous écoutez en podcast sur un autre fuseau horaire. On est le jeudi 27 juin. Et oui, au programme de l'émission, l'inquiétude. Faut-il s'inquiéter de la concentration des marchés? Trois entreprises américaines ont dépassé les 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Amazon, pas très loin derrière en plus, pour en faire quatre. Toutes ces entreprises sont dans le même secteur, la tech. Johan Lopez, le fondateur de la newsletter Snowball, va nous décrypter cela. À 10h30, votre dose d'économie comme tous les jours avec Nicolas Dose qui nous dira que l'économie ne fait pas voter les Français, mais finalement la peur de la fin du monde ne les fait pas voter non plus. Côté bourse, Antoine depuis Euronext est déjà connecté. Nos deux traders poursuivent la séance du jour. Ce sera le match des traders dans un petit quart d'heure. On vous coach dans le cadre de l'arrivée au pouvoir d'un parti extrême, qu'il soit de droite ou de gauche. Les investisseurs, vous peut-être, ont peur pour votre épargne. Un scénario à la chypriote est souvent évoqué dans les discussions B2B. Vous vous souvenez peut-être, 2013, saisie des comptes au-delà de 100 000 euros pour sauver l'État chypriote. Alors notre gestionnaire de patrimoine, François-Xavier Seur, va nous dire que la France de 2024 n'est pas Chypre de 2013, même avec un déficit public de 154 milliards d'euros. Dans le portefeuille de Franklin Pichard ce matin, le directeur de Kipling Finance, qui va nous dire que le flight to quality n'a plus la cote. On va zoomer sur 16 valeurs du CAC 40 qui sont en baisse depuis janvier. On va se demander aussi s'il faut garder en portefeuille des valeurs d'armement comme Thales, Safran, Dassault Aviation. Alors que mardi soir, vous avez sans doute suivi cela, les candidats pour Matignon n'ont pas abordé le volet international ni même touché un mot de la situation en Ukraine. Le question du jour portera sur les ETF. On sera avec l'équipe de BNP Paribas Asset Management. On fera un zoom sur l'ETF ACWI, All Country World, et on discutera de comment jouer la thématique Blue Economy. Oui, on parlera de nos océans et de trackers, c'est possible. Au programme, il y a vous êtes nombreux à nous suivre, à nous écrire. Vous continuez, l'adresse c'est direct@bfmbusiness.fr ou vous m'écrivez sur LinkedIn en message privé. Je vous lis et vos questions, réactions viennent alimenter notre direct. Nous partons du côté d'Euronext. Rejoindre Antoine.
Votre programme avec Salva by Garance. Votre épargne autrement. Salva, ça va le faire. Salva le faire.fr. Tout investissement comporte des risques de perte en capital.
Mon cher Antoine, on rebondit ce matin. Pas vous, pas moi, mais notre CAC 40. Mais pour le principe, on a rebondi, mais on est quand même vraiment, vraiment sur le fil.
Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment un rebond pour la façade, plus 0,02%. 7611 points. Encore une fois, on a eu une brusque inflexion de tendance. Elle s'est dessinée en avant-marché. On sentait vraiment que les signaux repassaient dans le vert. Puis aussi sec, on a réduit la voilure. Ça se sent d'ailleurs, puisque du côté de l'Eurostoxx 50, on est sur une hausse plus franche, plus 0,28% pour l'Eurostoxx 50. Le DAX à Francfort, plus 0,3%. Alors si on regarde l'obligataire, encore une fois, il est là le problème. Ça se tend encore sur la dette française. 10 ans, on a repassé le cap des 3,2%. Donc ça continue à se tendre et l'écart continue à se creuser avec le 10 ans allemand. On est à 2,48 là sur le Bund. Donc c'est vraiment de là que ça vient. La limitation très claire des progressions du CAC 40 par la forte pression obligataire, un scénario classique. Alors parmi les plus fortes baisses du moment, on a le secteur auto, moins 2,7% pour Renault. On est à 45,98 €. On a Stellantis qui est l'objet d'un abaissement d'objectif de cours d'HSBC qui perd 2,4% à 18,86 €. On a également d'autres secteurs qui sont attaqués ce matin. Veolia qui perd 1,3% à 28,29 €. Edenred moins 19,41,55 €. On a Sartorius Tedim aussi qui est attaqué par un analyste. Le titre perd 1,2% à 155,90 €. En revanche, à la hausse, on a Kering qui se distingue dans le secteur du luxe avec une belle recommandation de Bank of America qui repasse à l'achat sur la valeur. Le titre gagne quand même 5,4% à 344,15 €. Il profite aussi de son effet de levier, de sa capacité de rebond, étant donné qu'il est un petit peu en dedans hein, au sein du secteur du luxe. On a Téléperformance qui gagne 3,2% à 103,95 €. Safran avec une opinion favorable d'analyste là aussi qui gagne 1,3% à 199,45 €. Et puis au chapitre des dossiers un petit peu à la casse, on a Atos qui gagne 5,3% à 1,18 €. Le CAC donc moins 0,05%. Ça y est, on est repassé dans le rouge, hein, 7605 points, je vous le dis. Hein, la France qui est encore attaquée sur l'obligataire avec un 10 ans qui repasse le cap des 3,2%. Donc, et puis l'euro dollar toujours sous 1,07. Puis on creuse l'écart hein, par rapport au billet vert. On est à 1,0688 en ce moment, Lorraine.
On vous retrouvera dans une heure, Antoine, pour faire le point sur la séance en cours et puis pour parler des mineurs de Bitcoin à 11h. Ce sera votre histoire financière. À suivre le journal et puis on va passer une tête chez nos traders aussi pour voir ce qu'ils pensent de cette journée dans le vert pâle puis dans le rouge. À tout de suite.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
L'activité vous semble peut-être morose en France, alors du coup, je vous emmène suivre l'actualité à l'étranger. Du côté de l'Inde, un petit mot de private equity qui attire les grands noms du private equity. Les rendements sont élevés du côté de l'Inde et après quelques faux pas initiaux, plusieurs entreprises sont en train d'injecter des dizaines de milliards de dollars là-bas. Alors, c'est sûr que l'Inde connaît une croissance économique vigoureuse et un grand réservoir de talents et puis quelques réformes réglementaires qui facilitent les affaires. Bref, l'Inde est devenue un point d'attractivité pour les sociétés du private equity, surtout à mesure que l'intérêt pour la Chine faiblit. Je vous donne un exemple. Blackstone indique que l'Inde est désormais son troisième plus grand marché d'investissement après les États-Unis et le Royaume-Uni. De l'Inde, je vous emmène au Japon, où le yen a retrouvé une certaine stabilité après avoir chuté mercredi à son niveau le plus bas depuis 1986, ce qui a alimenté pas mal de spéculations sur une possible intervention des autorités pour soutenir la devise japonaise. Mais on peut s'attendre à ce que la chute du yen ne s'arrête pas tant que la Fed américaine maintiendra ses politiques de taux élevés. Un mot sur les perspectives pour les principales banques américaines qui s'améliorent. Vous avez peut-être suivi que les profits de Jefferies Financial Group ont augmenté, portés par une hausse des revenus de la banque d'investissement. C'est plus 59% au deuxième trimestre fiscal. Ces résultats indiquent une reprise de la demande pour les services de banque d'affaires, de banque d'investissement, alors que les préoccupations géopolitiques et les taux d'intérêt élevés ont freiné les transactions. De plus, ces résultats coïncident avec le succès que relevable des stress tests du côté américain. Un mot sur les chiffres à suivre dans la journée. Eh bien, on aura les jobless claims, on aura le core PCE, à ne pas confondre avec le PCE de demain, on aura les biens durables côté Amérique et puis il y aura également ce PIB américain dans la journée. Tous ces rendez-vous à suivre dans BFM Bourse avec Guillaume Sommerer, Julie Cohen et toute l'équipe du site BFM Bourse. Ce sera dès 15h30. Dans quelques minutes, on va se retrouver pour parler d'autres actualités qui vous concernent en tant qu'investisseur, investisseur français peut-être inquiet dans le contexte. On va parler de l'IA, de l'intelligence artificielle qui pourrait faire gagner jusqu'à 170 milliards de dollars d'ici 2028. Et puis on parlera en même temps de cette IA qui fait mal aux freelances. Nos experts ont quelques chiffres pour illustrer tout ça. On part chez nos traders faire le point sur la journée.
Tout pour investir, le match des traders.
Notre équipe du jeudi, c'est Mathieu Cerron du côté de Galileo Trading. Bonjour Mathieu.
Bonjour Lorraine.
Et puis on a Andrea Tuini du côté de Saxo Bank. Andrea, on démarre avec vous. Hier la journée a terminé dans le rouge. Là, on est déjà en train de basculer dans le rouge du côté de Paris. On attend quelques informations macro des États-Unis aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que vous surveillez aujourd'hui? Que pouvez-vous partager avec nous?
C'est vrai qu'on arrive dans la partie la plus intéressante de la semaine. Le début de semaine était assez calme. Alors en France, on a toujours bien sûr les élections en fil rouge, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'indicateurs macro. Même aux États-Unis, la dynamique était beaucoup plus calme que ce qu'on a connu sur les semaines précédentes. Là, ce qu'on observe à partir d'aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'indicateurs qui seront à digérer. Ça commence dès cet après-midi aux États-Unis. Vous avez fait la liste des indicateurs, mais c'est vrai que le plus important, c'est demain avec le PCE et donc ce chiffre de l'inflation hyper important aux États-Unis. On aura aussi de la politique aux États-Unis avec ce soir le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden. Donc du coup, on va avoir beaucoup d'éléments à digérer et puis on a toujours bien sûr en ligne de mire ces élections législatives en France et le risque politique, ce manque de visibilité aussi qui fait qu'on est dans une situation aujourd'hui hyper attentiste sur les marchés. On est même quasiment dans une situation figée. On voit que toutes les initiatives à la hausse sont complètement avorté. On a eu une tentative hier de repasser au-dessus de certains niveaux, mais on parvient pas forcément à le faire. Et puis, ce qui est plutôt rassurant, ça c'est l'aspect plutôt positif, c'est que les initiatives à la baisse, donc les pressions baissières sur le marché, sont pas si fortes que ça. Donc on est vraiment dans une situation figée, on n'est pas revenu sur les points bas, on a toujours cette zone de support 7475, 7500 qui tient, c'est un niveau important qu'il faut essayer de maintenir pour éviter de basculer dans une dynamique beaucoup plus négative. Et puis par contre, à l'inverse, il faut essayer de repasser au-dessus de certains niveaux, 7500 7550, c'est une résistance court terme, mais il faudrait surtout essayer de s'affranchir un petit peu de ces, des niveaux des 7600, hein, pour essayer de voir d'avoir une dynamique un peu plus positive sur le marché. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment face à un attentisme avec une prise de risque qui devrait rester limitée. Peut-être quelques arbitrages, un peu plus de volatilité. Faut pas oublier qu'on va être demain en fin de mois, fin de trimestre, du coup. Donc ça peut générer quelques mouvements sur le marché. Mais ce qui paraît le plus évident, c'est qu'on ait une prise d'initiative hyper limitée avant le résultat du premier tour et qu'on va rester dans un contexte de visibilité qui va être assez faible jusqu'au résultat final du deuxième tour. Donc on reste quand même sur le CAC, en tout cas sur une dynamique et une prise d'initiative hyper limitée avec une volatilité elle aussi qui reste assez faible, somme toute.
Andrea, est-ce que le PCE sera notre juge de paix? Est-ce que ça va nous indiquer ce qu'il faut
qu'on fasse?
Le PCE,
en tout cas, il va apporter... aux États-Unis, ça va nous apporter en tout cas une explication sur ce qu'on, ou en tout cas, ça va affiner un petit peu notre dynamique d'attente par rapport à la Fed. On a toujours une probabilité d'avoir une hausse de taux. Est-ce qu'on en aura plusieurs? Est-ce qu'elle va intervenir dès le mois de septembre? C'est un chiffre qui est très important. C'est la variable la plus regardée par la Fed. Donc, ça va certainement aider les indices américains à lire beaucoup mieux la dynamique et ce qu'on peut s'attendre en termes de politique des taux du côté de la Fed. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les indices américains sont très proches de leur plus haut, 5005 sur le S&P, quasiment 20 000 points, très, très proche des 20 000 points sur le Nasdaq. Et ça, c'est un signal plutôt positif pour les marchés européens et c'est ce qui aide aussi le CAC et les autres indices européens à tenir dans un contexte de visibilité politique qui est extrêmement faible. Donc avoir un signal positif du PCE, une inflation qui baisse et donc du coup potentiellement une Fed qui baisse ses taux, ça peut être un signal un support pour les marchés européens et surtout pour le CAC. Mais c'est sûr que à l'approche du week-end et la semaine prochaine, la politique aura un poids très très important sur le CAC et peut avoir des conséquences plus importantes que le résultat demain du PCE.
Merci Andrea Tueni. Mathieu Cerron, notre CAC s'accroche avec, j'allais dire, courage aux 7600 points. Quel niveau technique surveillez-vous et comment vous pouvez rebondir sur ce que nous a dit Andrea?
Ben on est toujours dans cette phase d'attente sur les marchés américains avec une évolution qui reste nerveuse à très court terme. On a vraiment une phase de porte de saloon où des mouvements de hausse et de baisse se succèdent et des mouvements qui sont très algorithmés. On l'a vu hier encore avec un début de séance qui était plutôt bien orienté et puis un repli constant. 2% de baisse sur le CAC et mouvement que l'on retrouve sur les autres indices aussi puisque le DAX a perdu 1,7%. Et indépendamment de ce mouvement-là, c'est vraiment la façon dont il se fait. C'est très régulier, vraiment une baisse larvée jusqu'au moment où on trouve appui sur des niveaux supports et puis les marchés américains repartant, ça nous aide aussi. Donc comment aborder cette phase-là? Eh bien, étant donné l'absence de visibilité à moyen long terme, moi je me concentre sur le CAC plutôt sur des opérations de très court terme en profitant de rebonds pour vendre. Ça a bien marché en début de semaine avec des ventes notamment dans la zone des 7735-40. Maintenant on en est loin de ce niveau-là bien évidemment, donc c'est un petit peu hors sujet. Donc là je suis placé notamment dans la zone des 7675-85. C'est la résistance proche qu'il faut surveiller, je pense. Donc là je vous parle du futur juillet. Pour ceux qui voudraient intervenir un petit peu plus vite, vu le manque de dynamisme que l'on a depuis à l'ouverture, déjà le petit plus haut là vers 8h30-9h peut être suffisant pour tenter une petite vente. Et ce que je vise comme type d'écart, je ne vais pas chercher de gros écarts, justement je me contente de mouvements de 0,4 à 0,8%, mais on arrive quand même à le faire plusieurs fois dans la journée. Et sur les actions, vous voyez, il y a aussi des situations qui sont très intéressantes sur les actions. Alors, c'est vrai que, comme je le disais, il n'y a pas tellement de visibilité. Donc, ce sont des petits paris qu'il y a à prendre. Mais vous avez des valeurs qui reviennent sur des niveaux supports importants. Je pense, par exemple, à Bouygues. On a un support sur 29,5-30. Voilà, il faut vraiment s'intéresser à des valeurs de qualité actuellement, aux fondamentaux solides. Et je finirai juste par un petit commentaire sur la volatilité. La volatilité implicite sur le CAC reste élevée. On est autour de 22. Et si jamais certains veulent prendre des petits paris en achetant, par exemple, des options et jouer soit une hausse, soit une baisse par rapport à ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. Alors, même si, les Allemands sont un petit peu moins concernés, ils le sont quand même. Vaut mieux aller sur le DAX, puisque sur le DAX, on a une volatilité implicite de 13.
Une volatilité moins forte du côté des Allemands. Je voudrais juste vous relancer tous les deux. En début de semaine, on discutait avec Gilles Santacreux et Jean-Luc Hussac du fait qu'il fallait garder des liquidités. Est-ce que c'est le cas pour les investisseurs? Alors peut-être pas intraday qui nous écoutent, mais ceux qui sont un tout petit peu plus long terme et fidèles publics de l'émission. Est-ce que vous êtes aussi d'accord qu'il faut garder des liquidités là, aujourd'hui, même à la veille ce premier tour d'élection et au milieu voilà, de ces chiffres macro américains qui tombent. Est-ce que c'est un bon conseil avec lesquels est-ce que c'est un bon conseil qu'on peut retenir avant de se quitter, Andrea?
Ah, pour moi, il y a plusieurs possibilités en termes de stratégie. On peut soit, en effet, quand on est intraday, ça on l'exclut parce qu'on va faire des mouvements assez rapides tout au long de la journée. Mais par contre, quand on a une stratégie un peu plus long terme, soit on peut choisir de sortir des positions et donc du coup de rester liquide pour essayer d'intervenir de manière assez dynamique si le marché touche un point bas et continue de baisser, en tout cas sur le CAC. Et c'est vrai que le risque à la baisse, il est plus important que le risque à la hausse aujourd'hui. Et l'autre possibilité, c'est de couvrir son portefeuille. Mais en effet, aujourd'hui, garder des liquidités pour pouvoir intervenir si jamais on a un scénario négatif suite au résultat du premier tour et encore plus suite au résultat du second tour et qu'on a du coup une baisse plus prononcée du CAC, ça permettra en effet de se repositionner sur des niveaux plus intéressants et d'essayer de jouer un petit peu la situation qu'on a connue en Italie avec la victoire de Meloni il y a quelques mois. Où on avait eu un scénario assez négatif avec des marchés qui ont d'abord baissé. Et depuis, c'est vrai que la situation en Italie s'est bien améliorée et qu'on a une dynamique plutôt vertueuse aujourd'hui sur les indices et sur les actifs italiens. Donc il y a cette possibilité de jouer un scénario au départ négatif et derrière se positionner sur des niveaux plus intéressants sur le CAC pour rejouer un rebond à plus long terme. Donc en effet, ça paraît pas complètement fou d'avoir aujourd'hui des liquidités disponibles sur le marché, même peut-être raisonnables, pour se positionner plus tard une fois qu'on aura réellement atteint un point bas.
Mathieu, c'est Ron, le mot de la fin pour vous.
Oui, bien sûr qu'il faut garder des liquidités dans cette phase-là. Quand on intervient en termes d'investissement, il y a deux critères. Il y a le critère du prix, il y a le critère du momentum. Là, on peut se poser la question sur plusieurs valeurs d'intervenir sur de bons niveaux de prix. On attendait justement des replis sur un certain nombre de valeurs pour avoir des prix d'achat intéressants. C'est le cas sur beaucoup. Donc, mais c'est pas forcément suffisant. Le critère du momentum est également intéressant, c'est-à-dire que on peut très bien garder des liquidités, comme je le disais tout à l'heure, rentrer quelques valeurs par-ci par-là avec un investissement, par exemple, de 30 à 40%, considérant que si les marchés baissent davantage, on aura la possibilité d'en remettre une couche, mais vraiment se concentrer sur des valeurs de qualité et pas des valeurs trop spéculatives. Et puis lorsque les événements à venir seront passés, qu'on aura peut-être davantage de visibilité, mais à ce moment-là, on rentrera, oui, sur des niveaux de prix un peu plus élevé probablement, mais peut-être à de meilleurs moments, d'où le critère du momentum.
Voilà, merci beaucoup messieurs pour votre regard. Merci Mathieu Cerron, trader et fondateur de Galileo Trading, et Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank, pour votre regard. Cette séquence, t'as retrouvé en podcast et en replay si vous voulez réécouter les bons conseils de nos deux experts. À suivre, on va parler d'ailleurs de qualité, on va parler de Flight for Quality. C'est Franklin Pichard de Kipling Finance qui va nous dire que justement, il y a une fuite là, qu'on va moins chercher les valeurs de qualité. On verra ça avec lui dans un gros quart d'heure, mais avant ça, on va continuer à débattre des sujets d'actualité qui vous concernent en tant qu'investisseur et investisseuse.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
L'équipe du jeudi, Géraldine Métifeux est parmi nous. Bonjour, chère Géraldine.
Bonjour, Lorraine.
Associée gérante d'Alter Egal et Johan Lopez et sa plume, le fondateur de Snowball. Bonjour, Johan.
Bonjour, Lorraine.
Nous avons un gros programme de discussion avec vous. Le premier concerne le premier sujet concerne la concentration des marchés. Qui vous inquiète, Johan? La concentration des marchés américains, puisque trois entreprises ont dépassé les 3 000 milliards de capi. Ces trois entreprises, déjà sont américaines, ensuite sont dans la tech. On relève. Est-ce que c'est vraiment inquiétant?
Alors, en fait, ça ne m'inquiète pas trop, justement. Oui, en effet, donc on voit une grosse concentration, notamment du S&P 500, entre les mains de la tech. Je crois que les 5 plus grosses entreprises sont de la tech et représentent un peu plus de 20% du S&P 500. Déjà, pourquoi c'est dangereux? Donc, souvent, on dit que c'est dangereux parce que, du coup, s'il y a un problème dans la tech, en fait, tous les indices, tous les portefeuilles vont être vachement impactés. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est vraiment catastrophique? Et quand on regarde l'histoire, on voit qu'il y a eu des cycles. Donc par exemple, au début du 19e, fin 18e, il y a eu une grosse concentration entre les mains des banques.
Là, tu vas encore plus loin que quand moi je parle.
Ouais, t'es très loin là.
Et ensuite, vous n'avez pas le monopole de l'histoire, Gérald.
Du cœur non plus.
Ensuite, milieu 19e, il y a eu une grosse concentration entre les mains des ferroviaires. Ensuite, il y a eu les premiers sets magnifiques au milieu 20e, qui étaient donc AT&T, General Motors, etc., qui ont dominé les marchés jusqu'à la fin des années 60. Et on se rend compte qu'en fait, à chaque fois, c'était des bull markets, quand il y avait de fortes concentrations. Donc la déconcentration arrive quand il y a du coup un bear market, marché baissier. Donc là, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit catastrophique, aussi dangereux que la tech ait justement tant de pouvoir au sein du S&P 500 ou ailleurs. Parce que, en fait, tant qu'il y aura de l'innovation, il va y avoir de la concentration et donc c'est pas forcément si dangereux.
Bon, en tout cas, c'est une réalité, cette concentration. Elle ne vous inquiète pas, vous, Johan, et vous, Géraldine, est-ce qu'elle inquiète vous et vos clients?
Non, c'est les clients, ils ont une... pas tant que ça. Les clients, ils ont tout sujet d'inquiétude en ce moment. Mais enfin, bull market, c'est souvent quand même bull market aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout ça, ouais, je me lance dans la politique, je fais des petites formules. Mais donc, c'est quand même, il y a quand même un vrai enjeu. Et savoir que on a trois boîtes à plus de 3000 milliards de dollars, d'autres à 2000 milliards de dollars, comme Amazon, ça. C'est quand même un sujet parce que ça, les flux font la perf, c'est-à-dire que tout le monde a envie de l'avoir, donc ça concentre. Il y a un moment où quand même les choses s'arrêtent. Et là où je suis un tout petit peu moins optimiste que toi sur cette partie, notamment sur la partie semi-conducteur, parce qu'à la limite sur des boîtes dont le, je dirais, dont le spectre est plus large d'activité, c'est moins un stress. Ouais. Mais sur des activités qui sont très très concentrées, d'abord on a beaucoup beaucoup valorisé ces boîtes-là.
Donc, Nvidia, par exemple.
Mais pas seulement, mais oui, Nvidia notamment. Oui, Nvidia, c'est un peu le truc dont on parle depuis un an et demi, mais Nvidia notamment, parce qu'à partir du moment où on a déjà un peu dans les cours toute la progression dont tu vas parler, et à quel moment on n'a pas une déception. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, quand il y a une crispation sur les marchés, malgré tout, les boîtes, on a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. C'est assez facile de couper un peu les plus-values parce qu'on n'a pas de difficulté. On ne se coupe pas un bras sur un truc qu'on lâche parce qu'on a perdu de l'argent. Donc, je suis un peu moins. Je suis un peu moins sereine que toi, mais on pourrait avoir cette remarque, parce que ce que tu dis sur la S&P 500, ça représente pas mal le MSCI World aussi. Et on l'a aussi sur le CAC, avec une très grosse concentration du luxe, qui prend un peu cher là depuis quelques temps. C'est pour ça d'ailleurs que finalement le CAC aurait pu prendre beaucoup plus cher avec l'annonce de la dissolution si les bancaires avaient été mieux répartis dans le CAC 40. Ça aurait pu normalement être un peu plus touchy. Okay. Donc les grosses concentrations, elles me mettent pas très à l'aise globalement. C'est vrai qu'on n'est pas très corrélé sur les indices, aux indices pardon, sur Alter Egal. Après voilà, tant que ça fonctionne, tout le monde s'en fiche. La réalité, c'est que quand ça fonctionne plus, on va vite voir que c'était dangereux d'être concentré. Donc je pense diversification, mais c'est aussi mon biais CGP qui pense diversification et qui s'inquiète des concentrations.
Votre biais CGP qui vous fait quand même regarder de près ce qui se passe autour de l'IA. Vous avez relevé un article de nos confrères des Échos qui pose sur la table ce chiffre, 170 milliards de dollars. C'est ce que l'IA pourrait faire gagner aux banques d'ici 2028. Déchiffrez-nous ce montant.
Alors c'est un chiffre de Citi, donc c'est pas complètement un chiffre des Échos. L'idée c'est que dans les secteurs banque-assurance, il y a énormément de tâches qui peuvent être qui sont affectées à l'humain et qui pourraient être automatisées. On dit 68% à peu près dans le secteur des banques, 62% pour le secteur de l'assurance. Donc il y a un gros potentiel d'automatisation et donc de gains. Après, qui dit gains en IA dit peut-être quand même un tout petit peu perte en emploi, parce que s'il n'y a plus Monsieur Hubert qui appuie sur le bouton, naturellement, il n'a pas de job. Donc après, c'est comme tout, hein, c'est comme toutes les révolutions industrielles, on trouve à employer ce que la nature déteste, le vide. Il y a à peu près 23% des emplois qui vont pouvoir changer. Mais c'est quand même considérable comme marge pour les banques, et je le dis notamment pour ceux qui souhaitent investir dans le secteur bancaire. Parce qu'en réalité, souvent les banques sont un peu les parents pauvres des investissements, on n'en parle pas beaucoup, souvent c'est maltraité en bourse, etc. Et donc, ça nous, entre les taux qui sont un peu plus élevés par rapport aux 15-20 dernières années, et cette arrivée massive de l'IA, ça peut être un secteur vraiment où on peut trouver un intérêt à nouveau à investir. On le dit depuis 2 ans, mais je pense qu'on peut maintenir cet intérêt, y compris pour les banques US, et quel que soit, j'ai envie de dire, le résultat de l'élection présidentielle US en novembre. Donc c'est à cet égard que c'est très intéressant, je pense.
170 milliards de dollars, effectivement, estimés par la banque Citi. 23% des jobs en danger. Et il y a un secteur où ça fait particulièrement mal, c'est le secteur des freelances. Racontez-nous ça, Yuan.
Oui, en effet, quand on regarde sur les plateformes type Upwork ou Fiverr, qui sont des plateformes de mise en relation de freelance avec des entreprises cotées en bourse, d'ailleurs, aux États-Unis, on se rend compte que tous ces jobs à faible valeur ajoutée, très répétitifs, les offres d'emploi ont chuté de 21% donc sur une plateforme comme Upwork, ce qui est gigantesque. Donc ça veut dire que beaucoup d'Américains vont être impactés parce que justement Upwork disait en 2022 38% des Américains ont fait un ou plusieurs jobs freelance dans l'année, justement pour rattraper les fins de mois qui étaient difficiles.
La gig économie, c'est le fait d'avoir un ou plusieurs jobs dont un ou deux sur le côté, quoi.
Exactement, ouais. Donc si ces jobs disparaissent à faible valeur ajoutée, qu'est-ce qui va se passer pour ces gens? Comment ils vont récupérer? Donc est-ce qu'on est face à une destruction créatrice à la Schumpeter et tout va bien se passer? Ou alors, est-ce qu'on est face à un changement un peu plus brutal et qui va être compliqué à gérer? dur à dire, là, je sais pas, j'ai pas la réponse.
Je sais pas, mais sur, quand on se souvient de la révolution,
il nous parlait de la grève des moines copistes, vraiment de la sortie de l'imprimerie.
Aujourd'hui, je sens qu'il a ouvert son bouquin d'histoire, donc je vais le laisser. Non, mais si on regarde un tout petit peu, on fait un pas de côté et on regarde juste une vingtaine d'années plus tôt, on trouvait que la tech, oui, le web pareil. À l'époque, c'était l'horreur parce que ça créait pas d'emplois, etc. Ça créait de la valeur quand même. Donc finalement, sur la valeur, on peut créer autre chose. Et puis peut-être aussi former des gens à autre chose, un truc ultra répétitif qui les rend un peu neuneux et qui, de toute façon, on les rend pas. Non, mais et donc après ils votent mal, donc je pense qu'il faut quand même leur trouver des jobs à des niveaux plus élevés, mais ça va être une transition. Donc est-ce qu'à l'instant T on sera plutôt en perte d'emploi et donc forcément une perte humaine, ou est-ce qu'on va réussir à recâbler les gens sur la partie emploi en Europe qui est plus protégée réglementairement parlant, en termes légal, ce sera plus cool. C'est sûr qu'aux États-Unis, bon, pour les freelance, il n'y a pas de solution immédiate. Mm-hmm. Et pour les employés non plus, parce qu'on sait que la protection sociale est moins importante sur le continent américain. Mais je crois volontairement, d'abord, je suis quelqu'un de très optimiste, en général. Et moi, je crois profondément qu'en réalité, on va trouver de nouveaux jobs un peu plus sympas, ou différents, à ces personnes qui ne pourront pas faire ce job-là parce qu'elles ne sont pas complètement débiles. Elles vont pouvoir se recycler, se former en ligne, et trouver d'autres centres d'intérêt et qui auront un attrait pour les boîtes.
Il faudrait le 11 juillet, puisque vous serez de nouveau là, qu'on ait un débat sur la création, la destruction créatrice des jobs de l'IA. Notamment tous ces jobs dont on ne parle pas, qui participent à fabriquer l'IA. Notamment, je pense à tous les travailleurs du noir de ChatGPT. Tous ces gens qui sont utilisés au quotidien, notamment au Kenya, si je ne dis pas de bêtises, anglophones, pour entraîner ChatGPT. Ouais. Ces jobs dont on ne parle pas. On va essayer de faire ça avant la fin de saison. Un tout petit mot rapide pour finir notre discussion, cher Gérard. Jean Chariouane, sur le private equity au Royaume-Uni, parce que il a failli avoir du mouvement sur la manière dont est taxé le private equity. Racontez-nous, Géraldine, est-ce que aussi ça pourrait nous concerner en France, pareil?
En France, je me prononcerai le 11 juillet, du coup, là. Et encore, peut-être en septembre. En revanche, il n'y a pas que chez nous qu'on vote. Vous saviez qu'il y avait 176 élections en 2024. Ouais. Donc, par définition, il y en a aussi au Royaume-Uni, qui sera le 4 juillet. Et le Labour, donc, qui est plutôt la partie gauche politique UK, par définition, a plutôt une vision assez... comment dirais-je, assez fan de l'impôt, plus que, bien sûr, les partis plus libéraux. Et donc... leur idée était de taxer un peu comme au niveau du travail les gains du private equity. Mmh. Donc plutôt à 45% qu'à 28%. Mmh. Ce qui fait que tout de suite une petite différence pour les gens. Ouais, pas besoin d'être très très fort en maths pour voir que ça va être pire en fait. Mmh. Alors ils ont revu un peu leur copie, c'est Rachel Reeves, ils ont revu un peu leur copie en disant bah oui, mais si vous investissez dans votre boîte après, on pourra quand même vous taxer en revenu du capital et pas en revenu du travail. Donc ça ressemblerait à un modèle un peu hybride qu'on a en France, où sur les carrières, on est obligé d'investir pour ne pas être 100% taxé en gain du travail. Donc, on revient un peu là-dessus. Mais il faut quand même se rendre compte qu'au Royaume-Uni, ils ont énormément d'investissements en private equity. Et donc, dans l'idée de rendre les finances un peu plus, comment dirais-je, équilibrées, eh ben, ça pouvait rapporter, cette idée-là pouvait quand même rapporter 565 millions de livres sterling au trésor public.
C'est pas une paille, hein.
Alors c'est pas une paille, mais 45% non plus. Alors c'est pas. Après je sais pas en tête le budget du UK, mais 565, c'est pas mal quand même. Hein, on est. Mais c'est vrai que c'est pas en soi gigantesque. Gigantesque, ouais, c'est ça. Et puis il y a une autre étude sur les carried interest qui ont représenté 2,7 milliards de livres de revenus au Royaume-Uni sur l'année fiscale 2020-2021, parce que vous savez, ils sont premier mai 30 avril, eux, en année fiscale.
Bien sûr, les Anglais ne font rien comme les autres. Ouais.
Oui, ça, d'abord, ils ne conduisent pas du bon côté. donc, c'est quand même des grosses sommes qui sont en jeu chaque année. Mmh. Donc, si on peut répéter ce mouvement, tu vois, d'un demi-milliard, bon, sur 10 ans, ça joue un petit peu quand même. Ouais.
Voilà, réponse sur ce qui pourrait nous attendre long juillet, quand on se retrouvera tous les trois. Merci beaucoup Géraldine Métifeux, associée gérante d'Alter Egal. Merci Johan Lopez, aux manettes, à la plume de la newsletter Snowball. Vous restez avec nous, on va continuer à parler économie fiction, si je puis dire. Vous le savez, dans le cadre de l'arrivée au pouvoir peut-être d'un parti d'extrême droite ou gauche, vous êtes peut-être en train de discuter d'un scénario à la chypriote, comme on dit, en 2013. Chypre a saisi sur les comptes au-delà de 100 000 euros pour bien aider l'État chypriote qui n'était pas en grande forme. Alors la France de 2024 n'est pas Chypre de 2013, c'est ce que va nous dire François-Xavier Seurre, notre autre expert en patrimoine qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Mais avant ça, la pub et Nicolas Dose qui arrive. À tout de suite.
Tout pour investir. Dose d'économie.
C'est l'heure de votre dose d'économie avec Nicolas Dose. Bonjour cher Nicolas.
Bonjour.
Et plutôt une bonne nouvelle, si je puis dire, aujourd'hui.
Clairement, on va
se féliciter du travail positif de notre pays, puisque la France est, ce qu'on peut qualifier, une bonne élève du climat. C'est l'association CITEPA qui est chargée de l'inventaire
des gaz à effet de serre,
qui confirme des conclusions du Haut Conseil pour le climat, je vous passe l'acronyme, sur la baisse de nos émissions. Alors dites-nous où on en est.
Eh ben, c'est mieux que prévu. Et surtout, j'ai voulu parler de ça parce que on entend toujours, on fait rien, ouais. Il se passe rien. Enfin, il y a toujours une espèce de mise en cause. On fait plein de trucs. On n'est plus, vous savez, la création du concept de développement durable par Gro Harlem Brundtland dans les années 90, où effectivement, tout le monde parlait du climat, de l'environnement, mais personne ne faisait rien. Et le greenwashing, c'était une réalité très généralisée. C'est plus cette époque. Ça, c'est terminé. Donc, les chiffres. Baisse des émissions de gaz à effet de serre au premier trimestre, 5,3%. Baisse 2023 sur l'ensemble de l'année, 5,8. C'est plus que prévu. C'est donc c'est le vrai premier signe hyper encourageant. L'autre élément encourageant dans cette observation, c'est très sérieux, hein, citez pas, ils bossent pour le Haut Conseil pour le climat, enfin voilà, c'est pas un truc au doigt mouillé. Deux tiers des progrès obtenus sont liés à des effets durables structurels. C'est-à-dire qu'il y a d'abord toute l'électrification de l'économie. Bon, elle est très loin d'être aboutie, mais elle a un effet, elle se voit, notamment dans l'automobile. Après, la transformation des moyens de production. Et vraiment, je suis amené à rencontrer très souvent des patrons d'entreprises. Je peux vous assurer que quand ils décident de transformer leur outil de production, d'y mettre de l'argent, ce sont des vraies actions avec des vrais euros vraiment concrètes. Sur des choses vraiment réelles. C'est plus du pipeau, c'est pas du vent. Voilà. Et ils vous racontent comment ils investissent dans un nouvel outil de production, comment ils vont verdir une flotte automobile, comment est-ce qu'ils vont passer de matériaux traditionnels à du biosourcé, à du recyclé, comment est-ce qu'ils vont réutiliser la chaleur, par exemple, de certains dispositifs industriels pour la recycler dans l'entreprise. Enfin, c'est des choses réelles. Et en plus, maintenant, on est capable de calculer l'empreinte carbone, on est capable d'auditer, de valider ce qui est réalisé. Donc, c'est pas du greenwashing. Voilà. Et c'est quand même hyper important parce que c'est ce qui s'est installé dans la tête de beaucoup de gens pendant très longtemps. Après, le Haut Conseil pour le climat observe que tous les secteurs, et y compris les secteurs très énergivores, sont engagés sur le sujet, notamment transport, bâtiment, industrie. Alors, le secteur très énergivore qui est encore un peu à la traîne, c'est l'agriculture. Après, on a l'atout de la France indiscutable, l'énergie décarbonée avec le nucléaire. C'est quasiment dans les atouts de la France, quand vous demandez aux investisseurs étrangers, c'est quasiment en tête de gondole aujourd'hui. Hein. Oui. On n'en parlait jamais il y a 10 ans. Aujourd'hui, on vous met énergie décarboné. Et puis alors, un phénomène incroyable, c'est qu'on a eu effectivement un choc énergétique indiscutable en 2022, ça c'est certain. Et là, à ce moment-là, un peu contraint forcé, tout le monde s'est mis à faire des économies et la sobriété. Et bien la sobriété est devenue un mode de fonctionnement. Voilà. Depuis 2022, on a une baisse de consommation d'énergie globale d'à peu près 8%, notamment d'électricité. Et donc voilà, la sobriété est devenue un mode de fonctionnement permanent et pas simplement un réflexe au gré des prix qui montent ou qui baissent. Après, c'est vrai, vous avez un tiers de ces résultats qui sont liés à des événements, pour le coup, conjoncturels. Si l'activité tourne à plein régime, il y a plus d'émissions que si elle ne tourne pas. On a essayé l'hyper-décroissance entre mars et mai 2020 avec le confinement. Voilà ce que ça donne. Alors là, oui, c'est vrai que les émissions de gaz à effet de serre avaient baissé. Moi, je rentrais à pied dans Paris, la Seine était transparente. On aurait peut-être pu s'y baigner. Il n'y avait plus d'activité.
Bah là, c'était ça, la solution pour les JO.
Ouais, mais là, on voit par exemple qu'il y a des secteurs importants, sur le bâtiment par exemple, qui est quand même un secteur qui est très émetteur, qui est quand même vraiment, vraiment ralenti. Également sur l'industrie papier-carton, qui est l'une des industries les plus émettrices. Donc ça, c'est un phénomène conjoncturel. C'est-à-dire que si ça change, évidemment... Pardon. Et puis l'autre élément, c'est la météo. Vous avez un hiver qui est particulièrement doux, vous chauffez beaucoup moins, le chauffage est encore un poste qui est très consommateur d'énergie, et là, vous avez donc un effet qui est lié à la météo. Bon, on a compris. Ça veut dire qu'avec les chiffres que je vous donne aujourd'hui, on tient les objectifs 2030. Baisse de 55% des émissions, comparé au niveau des émissions de 1990. Mais on ne tient pas encore l'objectif de 2050. C'est la neutralité carbone. Et puis alors, un point noir aussi, dans l'observation de l'association CITEPA, ce sont les puits de carbone. Et là, effectivement, il y a vraiment un travail à accomplir. D'abord, on constate qu'on a une mortalité des arbres qui est en hausse. On a une collecte de bois qui est en hausse. Et puis, il n'y a jamais eu vraiment de politique nationale sur les nouvelles technologies, c'est vrai, encore un peu embryonnaire, en matière de stockage de CO2 dans le sol. Donc là, c'est un point noir sur les efforts que nous pouvons mener. Mais objectivement, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien et qu'on ne fait rien.
Voilà, les chantiers ouverts pour plus d'innovation encore. Objectif, a priori, tenu pour 2030. Néanmoins, pardon de vous ramener dans le temps présent. de l'incertitude politique. Pourrait-elle, cette incertitude politique, freiner ces progrès en matière de réduction des gaz à effet de serre que vous venez de nous lister, je précise, tout à fait factuellement?
Alors, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas puisque vous prenez tous les textes qui étaient liés au climat. Exit. Tout est fini. Voilà. Il y avait la loi de programmation énergie-climat, on n'en parle plus. On allait sortir la troisième SNBC, stratégie nationale bas carbone, c'est terminé. Le troisième plan national d'adaptation au changement climatique était attendu, basta. Et il y avait la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc déjà ça, hop, table rase. Après, effectivement, le climat, d'abord, globalement, il n'existe pas dans la campagne. C'est même le contraire. Dans les offres politiques, on a quoi? On a des mesures qui reviennent peu ou prou à subventionner ou à faire la promotion des carburants fossiles. D'un côté, on vous bloque les prix. L'autre côté, on vous baisse la TVA. Je reviens pas sur ce que je pense des blocages de prix et des baisses de TVA. Ça n'est bon, bref, je l'ai fait en long, en large, en travers les jours précédents. Donc oui, évidemment que ça va à l'envers de ce que je suis en train de vous dire. Vous avez les écologistes d'Europe Écologie Les Verts qui continuent à s'opposer aveuglément à l'électricité d'origine nucléaire. Ça continue, si vous voulez. Bon, on va dire que de toute façon, ELV est quasiment dissous dans le nouveau Fonds populaire. Alors, je me mets aussi à la place des candidats. C'est pas facile de vendre la fin du monde, parce qu'on sait que le vert, c'est cher. Et bah, la fin du monde, ça fait pas voter. L'économie, ça fait pas voter, mais la fin du monde, ça fait pas voter non plus. Voilà. Maintenant, bon, on se réjouit, c'est très bien. La France est au-dessus de ses objectifs. On rappelle qu'on pèse 1% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Donc, c'est très bien que nous soyons bons élèves. Enfin, c'est pas nous qui allons changer le monde non plus.
Non. Pas facile de vendre la fin du monde, pas facile de vendre non plus l'économie. Merci Nicolas pour ce décortiquage, ce déchiffrage économique et écologique. À retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Si vous aussi vous voulez participer à la discussion, ça se passe également sur la chaîne YouTube de BFM Business, où vous pouvez trouver la chronique de Nicolas tous les jours, postée par notre équipe de Community Management. À suivre, on va aller dans le portefeuille de Franklin Pichard.
Tout pour investir en portefeuille.
Dans le portefeuille de Franklin Pichard, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin.
Bonjour Lorraine.
Vous n'avez pas forcément une bonne nouvelle pour nous, quoique vous allez nous dire que le flight to quality, cette recherche de valeur qualitative, je vais vous laisser traduire ça mieux que moi, ben ça n'a pas la cote. Et on parle d'entreprises comme Airbus, comme Vinci, même comme LVMH entre autres, qui ne sont pas en grande forme. Expliquez-nous.
Oui, on sait, et c'est répété chaque instant, chaque minute, chaque jour, la période est particulièrement préoccupante. Et dans ce contexte-là, en général, quand on a ce type de configuration de marché, on va chercher la qualité. On se dit, on va prendre les grands Barnum, on va chercher les valeurs sur lesquelles, a priori, on n'a pas d'inquiétude parce qu'on a de la visibilité long terme, on a de la perspective. Et puis là, on s'aperçoit que les titres, même dits de qualité, ne résistent pas à la tourmente actuelle. Et effectivement, les titres que vous venez de citer sont tous des titres qui sont en performance négative depuis le 1er janvier, à l'exception de LVMH qui avoisine les zéros en performance.
Oui, en
mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas du tout préoccupant, mais c'est vrai que pour les investisseurs qui ont l'habitude de voir ces valeurs-là mieux résister, même que ce soit des valeurs value, c'est-à-dire des valeurs rendement, des valeurs plutôt père de famille, des valeurs qu'on appelle de refuge, eh bien là aussi, elles ne remplissent pas leur rôle. On voit qu'il y a une déperdition dans les convictions des gérants et on voit qu'aujourd'hui, la prudence s'impose. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, parce que quand on regarde l'indice de la peur, le fameux VIX, il est toujours aussi bas, il n'y a pas de tension particulière. Donc ça, c'est la bonne nouvelle des chiffres que nous avons tous les jours.
On voudrait s'arrêter presque de manière citoyenne sur les différentes discussions des candidats, dans lesquelles il manque deux sujets, l'international et puis aussi l'Ukraine. Et ça nous amène, nous, en tant qu'investisseurs, à regarder les valeurs de guerre, j'allais dire, les valeurs d'armement. C'est à se demander s'il faut les garder, ces valeurs d'armement, si on en a en portefeuille. Et au-delà de l'armement, on parle de technologie, évidemment, on parle de Thales, on parle de Safran, on parle de Dassault Aviation. Quel est votre regard là-dessus?
Eh bien, écoutez, effectivement, quand on a eu ce fameux débat mardi soir, mercredi, tous les observateurs, les stratégistes des maisons de brokers s'étonnaient que le sujet de l'Ukraine n'ait absolument pas été abordé. Donc on connaît la position du Rassemblement national qui n'est pas enclin à favoriser les armes, vente d'armes et le flux d'armes vers l'Ukraine. Par conséquent, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs s'interrogent, est-ce qu'il faut que je garde ces valeurs? Est-ce qu'il faut garder Dassault Aviation? Est-ce qu'il faut garder Thales, qui sont marqués par ça? Alors justement, j'avais l'occasion de m'en étonner, de le partager avec quelqu'un de chez Thales hier, qui me disait, mais écoute, franchement... c'est pas déterminant chez nous, ça. Et on se souvient que l'année du démarrage de ce conflit, Thales avait pris 72%. Mais il y avait plus une sorte d'association pas tout à fait justifiée de la part des investisseurs. Et que, par conséquent, si aujourd'hui on devait freiner les livraisons d'armes à l'Ukraine, Thales et Safran encore moins seraient moins concernés par ces mouvements. Quant à Dassault Aviation, forcément, il y aurait un impact sur ces valeurs-là. Mais enfin, on donne pas nos Mirages comme ça ou nos Rafales à l'Ukraine. Donc, l'impact là aussi est très modéré, mais typiquement, je pense que le 8 juillet au matin, le Rassemblement national avait les commandes du pays, je pense qu'on pourrait avoir une réaction plus épidermique que fondamentale sur ces dossiers-là. Et si, en revanche, il fallait conserver ses positions, effectivement, en ce qui concerne Thales et Safran, il n'y a pas d'inquiétude.
Un dernier mot, puisque je vous ai sous le coude, si je peux dire, Franklin. Daniel, Raphaël, mais aussi Marie, nous ont posé des questions sur Airbus, qui nous a fait un petit peu, sentir vivant cette semaine en ayant quelques fluctuations, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous pensez d'Airbus ? On conserve l'action, on vend, on achète ?
Alors, on n'achète pas. On va attendre la publication du T2. Là, on nous a prévenu. On a fait un avertissement sur les résultats. Mm-hmm. On nous prévient qu'effectivement, il y aura des charges exceptionnelles. Dans les satellites, 900 millions. On avait déjà eu 600 millions au mois de novembre 2023. En fait, le problème par rapport à Airbus et cette chute de quasiment 10% avant-hier et 3% hier, c'est la confiance qui s'est un peu étiolée vis-à-vis du management d'Airbus. Tout le monde avait une confiance aveugle en Airbus. On avait de la visibilité. Tout le monde achetait Airbus et son carnet de commandes à 10 ans. Donc, c'est plus à travers la communication d'Airbus, le sentiment que, c'est le cas de le dire, on navigue à vue, on ne sait pas bien. On a d'abord provisionné 600 millions pour les satellites et puis maintenant, on en reprovisionne 900 millions. On sait qu'il y a des problèmes, avec les gros satellites. Hein. Maintenant, on est plutôt dans des constellations, basse altitude, ce qui fait la force de Starlink et de SpaceX. Et on voit que dans ce domaine-là, Airbus est un petit peu en position de faiblesse. Et puis au-delà de ça, on a l'impression qu'on remet sur la table, on recalcule les charges de travail, le calendrier des livraisons, puisque tout est venu du fait que l'augmentation des cadences de production devait se faire dès 2026 et Airbus a dit on ne le fera qu'en 2027. Ça veut dire qu'il y aura 35 machines en moins de livrées cette année, mais c'est quand même 35 de plus que 2023. Alors, tous les investisseurs veulent voir la bouteille à moitié vide. Je pense que c'est un petit peu exagéré, mais dans le contexte actuel, j'attendrai un petit peu pour renforcer, j'attendrai la publication en juillet d'Airbus avant de véritablement prendre une position.
Airbus, on conserve, mais on attend les publications du deuxième trimestre. Merci beaucoup Franklin Pichard, Kipling Finance, avec nous au décryptage dans Tout pour investir. Ce sentiment de marché, ce regard sur ces valeurs qui décrochent depuis le début de l'année, est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. On va vous emmener du côté de Chypre dans la séquence à suivre. La France de 2024 ressemble-t-elle à Chypre de 2013, où le gouvernement est allé ponctionner les comptes au-dessus de 100 000 euros? Réponse à suivre.
Tout pour investir, le coach.
Le coach qui va peut-être nous faire peur ou nous rassurer. On va se demander si, dans la tempête économique et politique qu'on traverse. Est-ce qu'il faut mettre son patrimoine à l'abri? En tout cas, c'est des questions que vos clients vous posent. François-Xavier Seur, bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes gestionnaire de patrimoine chez Terrae Patrimoine. Bah oui, avec les élections législatives, il y a une tentation de... D'ailleurs ?
Le téléphone sonne.
Racontez-nous un peu.
On a, ça ne vous a pas échappé qu'effectivement il y a des élections et un contexte un poil tendu sur le plan sociétal, on va dire, au niveau français. Et aujourd'hui, effectivement, il y a quand même de nombreux Français, alors moi, parmi des clients, ou même des personnes qui sont aujourd'hui pas mes clients, mais qui commencent à poser des questions dessus, qui posent des questions sur le devenir de leur patrimoine en cas d'arrivée au pouvoir d'un parti extrême, extrémiste, après on le qualifie comme on veut, que ça soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très 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 présent, on le sent, il y a beaucoup d'appels, beaucoup de questions, et les gens réagissent beaucoup quand moi je leur pousse de l'information à ce sujet. Et on parle beaucoup de Chypre, on parle beaucoup d'un scénario à la chypriote, c'est quelque chose qui revient, qui je pense est resté un peu dans l'imaginaire collectif.
Vous nous rappelez ce qui s'est passé à Chypre, vous nous emmenez en 2013.
Exactement, Chypre 2013, on est dans l'après, on est dans les conséquences de la crise des dettes souveraines. Donc il y a eu 2008 les dérapages budgétaires liés à la crise de Lehman Brothers, il y a eu la crise financière derrière, il y a eu une crise économique, et il y a la faillite de la Grèce. Et il y a le défaut partiel de la Grèce, de mémoire 2011-2012, c'est sur cette période-là que ça s'est passé, et ça a contaminé l'économie chypriote, parce que l'économie chypriote et les banques chypriotes étaient très dépendantes à la banque grecque. Et il faut voir qu'il y a énormément, donc l'économie chypriote avait une partie bancaire qui était absolument énorme, je crois que ça représentait 8 fois le PIB de Chypre, je crois qu'il y avait un banquier pour 1000 habitants, enfin c'est quelque chose, c'est des proportions absolument délirantes, et il faut voir qu'il y avait énormément de dépôts à Chypre qui étaient issus d'argent sale russe, pour être très clair, et d'argent sale grec, mais beaucoup d'argent sale russe. Et en fait, lorsqu'on a eu un État qui était pas loin de faire faillite, enfin en tout cas de faire défaut sur sa dette comme venait de le faire la Grèce, il devait trouver quelque chose comme 17 milliards et l'Union Européenne, le FMI, etc. étaient prêts à aider à hauteur de 10 milliards et ils ont eu besoin de trouver à peu près 5 à 7 milliards de plus. Et c'est là qu'il y a eu cette tentation de faire une saisie sur les comptes. Dans un premier temps, on a dit tous les comptes de moins de 100 000 euros, on va prendre 6,5%, 6,6, je ne sais plus combien exactement, et au-delà, on va prendre à peu près 10. Là-dessus, il y a eu une négociation, on a dit non, finalement, il y avait une des deux banques chypriotes qui était en grande difficulté, ils ont laissé faire faillite à la banque sur la partie qui était au-delà de 100 000 euros. Et en gros, ceux qui avaient plus de 100 000 euros dans cette banque, ils ont quand même perdu pas loin de 60% de leurs actifs. Donc, c'est quand même énorme. L'objectif, c'était de taper les Russes au portefeuille, on va être très clair, parce que c'était eux qui avaient énormément d'argent. Sauf qu'il y a eu tellement de discussions au Parlement, on va pas se mentir, le temps que Chypre saisisse sur les comptes, l'argent sale russe, il était quand même parti dans les Pays-Baltes depuis longtemps.
Il avait un petit peu le temps de partir. Bon, rappel historique, attention, on n'est pas là pour être des oiseaux de malheur.
Non, surtout pas.
Vous allez surtout nous dire que la France de 2024, on espère, quelle que soit l'arrivée au pouvoir ou la réminiscence au pouvoir du gouvernement actuel, n'ont rien à voir.
C'est ça. Alors, c'est extrêmement important de le rappeler. La France de 2024 n'est pas le Chypre de 2013. La semaine dernière, on a encore placé, malgré l'incertitude électorale, alors je ne suis pas sûr que les investisseurs internationaux comprennent grand-chose aux législatives, mais...
Avec nous, on a du mal, alors. C'est sûr que...
En tout cas, eux, ils ont acheté massivement la dette française. On a placé de la dette française la semaine dernière, ça a été sursouscrit, donc il n'y a pas de souci de confiance aujourd'hui.
Ça s'est bien passé, il faut le dire.
Ça s'est très bien passé, et aujourd'hui... On regarde tous les jours les niveaux de dette, vous le rappelez extrêmement souvent à l'antenne, et comment ça se passe tous les jours avec les variations de la dette française. On n'a pas explosé aujourd'hui au niveau du taux de la dette. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir extrêmement surveiller, parce que quand on regarde le débat là, qu'on a eu entre les têtes de liste pour les prochaines élections, on parle de dépenses, on parle pas de réduire le déficit public. L'an dernier, on a eu 5,5% de déficit public, on a 110% du PIB public, enfin le ratio dette sur PIB en France est 110%. Donc on est quand même sur une situation qui est tendue, il n'y a personne qui parle de l'améliorer aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui inquiète. Et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui disent, mais est-ce qu'au bout d'un moment, il ne pourrait pas y avoir un jour un scénario à la chypriote en France? Et est-ce qu'il faut que je place mon argent à l'étranger? Et ça, c'est une question qu'on entend toujours dans ces périodes de tension.
Alors, est-ce que votre réponse, c'est assurance vie luxembourgeoise?
Ça peut être une réponse. Ça peut être une réponse pour se rassurer. Parce qu'en fait, ce scénario, on l'a eu en 2017, on l'a eu en 2012. Alors, en 2012, il y avait l'arrivée au pouvoir de François Hollande qui disait « Mon ennemi, c'est la finance ». Bon, ça fait flop.
Oui.
2017, il y avait la question d'avoir Macron, Le Pen, Mélenchon, Fillon. Tout le monde était à 20%. Il y a eu la question d'avoir peut-être en deuxième tour Mélenchon, Le Pen qui avait fait très peur. Et c'est le moment, jusqu'à présent, de ma carrière professionnelle où j'envoyais le plus d'argent au Luxembourg en quelques semaines, pour être très très clair. Et là, ce mouvement, il l'a repris. Très clairement, moi, ça fait 15-20 jours que j'envoie à nouveau beaucoup d'argent au Luxembourg sur les comptes de mes clients, soit qui sont déjà ouverts, soit qu'on en ouvre. Et la réponse des assureurs luxembourgeois aujourd'hui est de dire « Ah, on est sous l'eau. On n'y arrive plus à faire face à la demande. »
À traiter le flux.
À traiter le flux. Aujourd'hui, les flux, ils prennent plusieurs semaines. Parce qu'en fait, il y a une grosse, grosse demande et il y a beaucoup d'argent qui, en ce moment, est en train de partir.
Pour les investisseurs les plus novices qui nous écoutent ou ceux qui n'ont pas forcément un patrimoine ou une interface avec un gestionnaire professionnel comme vous qui aurait jamais entendu parler de l'assurance vie luxembourgeoise, rappelez-nous ce que c'est.
Alors, l'assurance vie luxembourgeoise, c'est une assurance vie exactement comme la française, sauf qu'elle est sous l'administration du Luxembourg. Donc, elle est sous des règles qui sont des règles luxembourgeoises. Donc, c'est ça qui est extrêmement important, c'est qu'on n'est plus placé sous la protection de la France, mais sous la protection du Luxembourg. Donc, on choisit d'aller au Luxembourg. Il y a une neutralité fiscale absolue. C'est justement l'intérêt. D'ailleurs, habituellement, on s'en sert plutôt pour les non-résidents. C'est quelque chose qui est très souscrit par les non-résidents, l'assurance vie luxembourgeoise, qui est une neutralité fiscale avec le lieu de résidence où l'on est. Donc, c'est quelque chose qui est très utilisé par les non-résidents et c'est surtout utilisé par les gros patrimoines parce que l'assurance vie luxembourgeoise, pour que ça commence à devenir intéressante, il faut au moins avoir 250 000 euros, on va dire, à placer sur un contrat. On commence à avoir les mains libres et vraiment à pouvoir faire énormément de choses sur de l'ingénierie financière. C'est pour ça, moi, que je m'en sers du contrat luxembourgeois. Je m'en sers pour faire l'ingénierie financière, pour aller mettre du non-coté dans des contrats, pour aller faire des fonds d'investissement dédiés avec une gestion dédiée en titres vifs. Ça, ça devient intéressant quand on a 1 million d'euros à mettre sur un contrat et 2,5 millions de patrimoine financier. Il faut les deux.
En quoi ce n'est pas de l'évasion fiscale ?
C'est pas de l'évasion fiscale parce que c'est parfaitement transparent sur le plan fiscal. Il n'y a aucun avantage à ouvrir un contrat d'assurance vie au Luxembourg, que ça soit sur le plan de l'impôt sur le revenu ou de la succession. Donc en cas de vie ou en cas de décès, il n'y a aucun avantage. Le Luxembourg est un ancien paradis fiscal pour les particuliers et est toujours un paradis fiscal pour les entreprises. Ça, c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, quand on va au Luxembourg, on y va pour la protection, parce que l'État luxembourgeois aujourd'hui, c'est se dire que si jamais demain en France, on n'a pas confiance dans la France et on se dit qu'il y a un risque de saisie, eh bien si on a des actifs au Luxembourg, eh bien on ne sera pas sous ces questions-là, puisque par exemple la loi Sapin 2 ne s'applique pas.
Rappelez-nous en quelques mots rapidement ce que c'est que la loi Sapin 2.
La loi Sapin 2, c'est une loi qui permet en fait à l'État français, globalement, de bloquer les retraits et les mouvements sur des contrats d'assurance vie français si jamais à un moment il y a une tension. C'est pas si mal que ça en soi-même comme loi. Il y a beaucoup de monde qui dit on veut la fuir, on veut l'éviter.
Notamment pour les sujets de blanchiment.
Alors, oui,
ou de lutte contre le blanchiment.
Ça a été une partie du package. Mais en fait, la loi Sapin 2, ce qui fait peur, c'est le blocage. C'est de dire vous ne pouvez demain ne plus avoir accès à vos comptes. Mais la loi Sapin 2, c'est comme la glissière de sécurité sur l'autoroute. On veut jamais la taper, mais on est content qu'elle soit là. Parce qu'en fait, psychologiquement, ça permet de savoir que demain, si jamais beaucoup de monde veut retirer de ses actifs des assureurs, l'État le bloquera et protégera les investisseurs. L'intérêt du Luxembourg, c'est que demain, il n'y a pas ces règles-là. Et surtout, quand vous déposez votre argent au Luxembourg, vous ne déposez pas vos actifs dans la banque. C'est ça qui est extrêmement important. Dans l'assureur. Vous ne rentrez pas dans le bilan de l'assureur. C'est ça qui est extrêmement important. Demain, l'assureur fait faillite. Vous êtes prioritaire sur l'État pour récupérer vos billes. Et vous pouvez même récupérer l'intégralité de vos avoirs. Vous pouvez vous les faire livrer sur un compte titre. Vous êtes ce qu'on appelle créancier de premier rang. Donc, si vous avez peur de ça, partez au Luxembourg, mais encore une fois, la France de 2024 n'est pas le Chypre de 2013.
François-Xavier Seur, gestionnaire de patrimoine, juste pour conclure là-dessus, vos conseils, vos points d'attention, rapidement pour ceux qui nous écoutent.
Très rapidement, souscrivez un vrai contrat d'assurance-vie luxembourgeois. Si vous voulez souscrire un vrai contrat d'assurance-vie luxembourgeois, ne souscrivez pas un contrat français réassuré au Luxembourg. Globalement, si on vous conseille un contrat luxembourgeois, vous avez du fonds euro, ce n'est pas un contrat luxembourgeois. Vraiment, ça c'est la première des choses. Faites extrêmement attention aux frais. Quand on regarde uniquement ces questions politiques, géopolitiques, il faut faire attention aux frais parce qu'on peut avoir un empilement monstrueux de prêts. Ça va ressembler en fait à une gestion pilotée en contrat assurance-vie français. Donc vous allez
Sandwich de frais,
il faut vraiment éviter ça. L'informatisation est parfois limitée, donc vous pouvez avoir des accès clients qui ne sont pas forcément exceptionnels. Et on va vous demander énormément de choses en matière d'origine des fonds. Comme tous les anciens paradis fiscaux, ils ont tendance à vouloir laver plus blanc que blanc. On a demandé il n'y a pas longtemps à une de mes clientes comment son grand-père avait créé la fortune familiale. On a dû remonter sur 2 générations sur la création de la fortune familiale. Donc soyez prêts à ce que, si jamais vous voulez avoir votre contrat ouvert dans 10 jours, ce n'est pas possible. Soyez prêts à vraiment fournir énormément de documents et ça va prendre du temps parce qu'en plus en ce moment, il y a un vrai embouteillage.
Voilà ce point sur faut-il et comment mettre son patrimoine à l'abri, toujours en Union européenne, mais du côté du Luxembourg, avec ses assurances luxembourgeoises. Vous étiez assez nombreux et nombreuses à nous poser des questions sur ce sujet. J'espère que François-Xavier y a répondu autant que vous en aviez besoin. Merci beaucoup, François-Xavier Terrail, patrimoine, avec nous dans Tout pour investir. Évidemment, n'oubliez pas de déclarer chaque année vos contrats d'assurance si vous en ouvrez un.
parce que c'est les règles.
Sinon, il y a une amende.
Sinon, il y a une amende, évidemment. Vous restez avec nous. On continue à s'occuper de votre patrimoine, celui que vous avez ou celui que vous essayez de construire. On va parler immobilier à suivre. Et puis, on parlera aussi ETF. On va s'intéresser à comment miser sur l'économie bleue. Oui, c'est possible, à travers des trackers. À tout de suite, après la pub.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de votre culture financière, de vos investissements, de vos futurs investissements et placements. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, de 10h et jusqu'à midi. On est tous les jours là, du lundi au vendredi. On est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour ou de la nuit. Le programme de l'heure à venir, on va parler immobilier, comme tous les jours. On va zoomer sur la crise du marché locatif. Qu'attendre dans cette période de troubles ? Attention au taux d'intérêt de la dette qui pourrait influencer les taux immobiliers, mais aussi le budget que la future majorité voudra consacrer au logement et à la rénovation. C'est ce que va nous dire Pierre Autus, le directeur délégué général de Pluriance et Clameur. Avec Marie-Cœur de Roy, ce sera dans moins de 10 minutes. Le question-réponse du jour portera sur les ETF, sur les trackers. On sera avec l'équipe de BNP Paribas Asset Management. On zoomera sur un ETF que vous connaissez sans aucun doute, le ACWI, All Country World. Et on discutera aussi de comment jouer la thématique de l'économie bleue, de la blue economy, des océans, tout ça via des trackers. Oui, c'est possible, vous verrez, on va voir ça vers 11h30. Vous avez des questions, on aura sans aucun doute des réponses. Vous nous écrivez, ça se passe sur LinkedIn en message privé, Lorraine Goumeau, ou bien via l'adresse du direct@bfmbusiness.fr. Nous partons du côté d'Euronext pour faire le point sur la séance en cours. Et petit spoiler, on est passé en dessous des 7600 points. Et oui Antoine, notre CAC 40 vraiment entre deux eaux, à nouveau sous pression. Dites-nous ce qui se passe depuis une heure.
Les taux, quand on a besoin d'une explication, souvent elles crèvent les yeux et c'est les taux d'intérêt, c'est le marché obligataire qui pèse sur l'ensemble des transactions. On est monté à 3,2% sur la dette française 10 ans, on s'était arrêté quand même à 3,17 hier en clôture avec une très nette tension. Et là ça continue et on reste vraiment sur ces niveaux-là. Alors on a un peu corrigé à 3,19, mais enfin l'écart continue de se creuser avec la dette allemande à un peu plus de 70 points de base. On est à 2,47 sur le Bund, mais très clairement c'est ça qui pèse sur les indices, qui empêchent toute velléité d'achat et tout changement de direction. Puis on voit que c'est vraiment centré sur la France, sur le CAC 40, qui perd 0,21% désormais, qui passe, vous l'avez dit, sous les 7600 points, 7592 à l'instant, alors que le DAX à Francfort reste légèrement dans le vert, plus 0,04%, et au Stock 50, plus 0,07%. En plus, il y a certains secteurs qui pèsent, alors notamment l'automobile, singulièrement ce matin. Stellantis qui recule de 3,15% à 18,72, il y a un abaissement d'objectifs de cours d'HSBC, notamment sur la valeur. On a Renault qui recule de 2% à 46,28 €. Et à noter que c'est Edenred qui signe la plus forte baisse à moins 2,8% à 40,88 €. Mais il y a aussi des opinions d'analystes un peu plus favorables. Et notamment autour de Kering, c'est Bank of America qui relève son opinion à l'achat sur la valeur. Et elle réagit bien. C'est vrai que Kering, en plus, il y a toujours un effet de levier étant donné que le groupe est considéré, alors à tort ou à raison, comme un petit peu en dessous par rapport à Hermès et par rapport à LVMH au sein du secteur du luxe. Donc il y a de meilleures perspectives de dynamique quand le titre remonte, et c'est ce qui est en train de se passer puisque le titre prend 5,4%, c'est la plus forte hausse du CAC à 344,25 €. On a Safran avec là aussi une opinion acheteuse, c'est Citigroup qui relève à l'achat son opinion sur la valeur. Le titre gagne 1,4% à 199,60 €. Et puis derrière, à signaler Legrand qui gagne 0,97% à 95,64 €. On a Atos aussi qui en profite pour se redresser, plus 4,2% à 1,17 €. Et l'accord avec le personnel de Casino profite au titre là qui gagne 2% à 3,45 €. Le CAC donc moins 0,23, on est à 7591 points. Et du côté de l'euro face au dollar, on est toujours sous 1,07, 1,0691, toujours la pression autour de la zone euro.
Et oui, vos explications Antoine, avec notre CAC 40 qui ploie, on peut dire ça, qui ploie sous le poids de l'obligataire. À suivre votre histoire financière, on va parler crypto.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
des cryptos et des mineurs. Vous allez nous parler de ces grands majeurs, ces grandes majors du minage de Bitcoin qui font vraiment flèche de tout bois, même flèche de tout bois, en minant du Bitcoin, mais pas que. Racontez-nous ce que font ces acteurs.
Oui, dans un souci de diversification, bah, toujours la même chose, hein, essayer de trouver de nouvelles trajectoires de rentabilité de leurs énormes capacités de calcul. Alors, on mine du Bitcoin, on va louer aussi les capacités de traitement des données à l'intelligence artificielle, aux startups qui travaillent cette matière première. Et puis, bah, alors ça peut paraître étonnant, parce que désormais, rares sont les cryptos, à part le Bitcoin, qui sont basés sur le concept de preuve de travail. Vous savez, c'était tout le débat autour de ces différentes logiques de fonctionnement des cryptos. La preuve de travail pour le Bitcoin, la proof of work, comme on dit, dont la valeur est surtout déterminée par la puissance, l'énergie, le calcul des transactions, alors que tout le monde avait plutôt tendance à, comme l'Ether par exemple, à aller vers la proof of stake, la preuve d'enjeu par le consensus des validations pour déterminer la valeur. C'est moins gourmand en énergie, c'est plus économe en transmission de données, et donc ça contentait tout le monde à ce niveau-là. Mais dans ce cas-là, le minage devient moins essentiel. Et comme les mineurs veulent justement faire un petit peu bouger les choses et pas rester sur le monolithique Bitcoin, ils vont chercher à miner autre chose. Et c'est le cas de Marathon Digital, qui s'est mis depuis septembre dernier à miner alors une petite crypto, pas très connue, ça s'appelle le Caspa. On est autour de 4 milliards de dollars de capitalisation. Hein, c'est vraiment une toute petite crypto. Elle est valorisée à 16 cents le token. Et Marathon, on a fabriqué 93 millions jusque-là. Ça représente alors une toute petite quantité, hein, 15 millions de dollars aux cours actuels, parce que Marathon ne peut pas se passer, est un petit peu addict au Bitcoin, étant donné qu'il est au cœur de cet écosystème, donc il reste très dépendant du Bitcoin. Mais voilà, on se diversifie un tout petit peu, et le groupe a déclaré en plus qu'il allait continuer à augmenter ses capacités, notamment au troisième trimestre, en doublant ses capacités de minage de Caspa, en passant de 30 à 60 pétahash. Vous vous souvenez, c'est l'unité de c'est la métrique de la production de crypto-monnaie, pour profiter justement des dynamiques de croissance du Caspa, alors qu'il dépasse en plus le Bitcoin en performance sur un an. Il gagne 50% contre 40% pour la reine des cryptos. Donc vous voyez, les majors du minage tentent de se diversifier un petit peu et font effectivement feu de tout bois.
Marathon qui pousse les feux sous le Caspa, que j'appelle pour les investisseurs intéressés qui considèrent les cryptos comme des actifs comme les autres. Caspa, ça s'écrit K-A-S-P-A. Merci beaucoup Antoine de Pure Next, tous les jours dans Tout pour investir quand il n'est pas aux manettes. À retrouver cette histoire en podcast et en replay sur notre site et notre application d'ici quelques secondes. À suivre, on va parler immobilier. Et oui, il y a aussi peut-être des choses à faire du côté du marché locatif dans cette crise, des opportunités. À tout de suite.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
La place de l'IMO est au centre de celle-ci, le marché locatif, ce marché en crise. On va réfléchir à ce qu'on peut attendre dans cette période trouble de ce marché locatif, car oui, qui dit crise dit aussi opportunité. Restons pro-business. Bonjour Marie-Cœur de Rouen.
Bonjour Lorraine.
Pas facile comme exercice, mais c'est ce qu'on essaie de faire sur BFM Business. Nous ne sommes pas seuls. Pierre Autus nous a rejoint. Bonjour cher Pierre.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de Pluriance et Clameur. Avec vous, on va prendre le pouls. Le pouls de ce marché locatif.
Bon, marché locatif en crise, hein, on va pas se mentir. Pierre, déjà, on va se dire où est-ce qu'on en est sur ce marché locatif, parce que cette période trouble en termes politiques, avec ces élections législatives anticipées, ça met quand même aussi un coup d'arrêt à tout ce qui était en train de se faire pour faire relancer un tout petit peu le marché. On en est où, là, concrètement ?
C'est vrai que avant cette dissolution, avant même les élections européennes, depuis février-mars, on avait un frémissement. On a eu une annonce de baisse de taux par la Banque Centrale Européenne qui relançait un peu d'espoir pour les investisseurs et les accédants à la propriété aussi pour acheter leurs biens immobiliers. Il y avait quelques propositions de loi, des choses qui étaient dans les tuyaux pour essayer et tenter de fluidifier un peu les choses.
Vous pensez à quoi en particulier, Pierre ?
Y avait des choses sur la fluidité du parc social qui aurait pu donner peut-être un peu d'air au parc locatif privé. Il y avait surtout des choses dans le domaine de la copropriété et sur la gestion locative, les exceptions de copropriété pour les travaux qui ne peuvent pas être réalisés parce qu'il n'y a pas de décision de copro, et donc de ne pas pénaliser le propriétaire qui est coincé. Donc, il y avait des idées un peu en ce sens-là qui auraient pu donner des assouplissements par rapport aux différents calendriers de rénovation énergétique 2025, 2028, etc. Et puis sur la sur la gestion locative, de se dire que, après tout, interdire une mise en location, peut-être faut-il attendre qu'il y ait le départ du locataire, qui est quand même le meilleur moment pour faire les travaux, et donc de donner un peu de fluidité en ce domaine, au renouvellement du bail, etc.
Je suis obligée de vous contredire un tout petit peu, Pierre. D'abord, la loi climat et résilience, il me semble, mais après vous m'arrêtez si je me trompe, qu'elle prévoyait d'ores et déjà des petites exceptions. Et typiquement, quand la copro s'oppose au vote des travaux, que vous êtes, vous, à l'initiative de la demande de faire les travaux et que c'est nécessaire pour que votre logement qui était passoire sorte de l'état de passoire, a priori, il y avait quand même une forme de tolérance, non ?
Oui et non. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'était pas très clarifié. Et donc, la loi de Guillaume Vuilletet, la proposition de loi de Guillaume Vuilletet qui était portée là tout début juin, venait clarifier ces choses, notamment vis-à-vis, par exemple, du propriétaire. Il y avait des amendements, des propositions qui avaient été faites pour que le juge ne puisse pas annuler, baisser le loyer pour sanctionner le bailleur. C'est-à-dire qu'il y avait une tolérance qui disait qu'on pouvait toujours louer, évidemment, mais sauf que vous n'aviez plus votre loyer. Et donc, c'était un peu la double peine pour le propriétaire qui, à la fois, ne pouvait pas être coincé pour faire ses travaux et, en plus, n'avait pas les recettes pour les payer.
Alors après, sur aussi l'organisation des travaux et de l'interdiction de la mise en location, là encore, juste petite précision à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, il me semble, et encore une fois, vous m'arrêtez si je me trompe, que c'est au renouvellement du bail, alors pas forcément du coup au départ du locataire, mais que c'est au renouvellement du bail que l'obligation d'avoir réalisé les travaux s'imposera. C'est-à-dire que, en gros, si moi je signe le bail au 1er décembre 2024 et que c'est un G, au final, j'ai 3 ans pour que mon propriétaire bailleur fasse les travaux.
Oui, mais c'était pas forcément clair et fluide pour les locataires, tout comme les propriétaires.
Oui, mais c'est pour ça que c'est important de le redire, parce que de se dire, c'est pas le 1er janvier 2025, le coup prétombe, interdiction de tous les jets, faut les sortir du marché.
Oui, mais il y a une question tout à fait pragmatique de se dire que des vrais travaux de rénovation globaux, d'envergure dans un appartement, on le fait au départ du locataire. Il y a une étude formidable qui a été faite par la NIL, à laquelle j'ai participé, c'est pour ça que je dis qu'elle est formidable.
Dites-nous comment elle s'appelle, cette étude, que ceux qui nous écoutent.
C'est sur les travaux qui date de 2020, que vous pouvez retrouver sur le site de la NIL, et le moment le plus propice, qui a été déterminé, c'est le moment du changement de locataire. Ce qui est parfaitement logique, ça vient enfoncer une porte ouverte, mais c'était bien de l'étudier. Et donc, effectivement, le départ du locataire, ça a donné une souplesse entre 2025 et 2028. Le Sénat a rendu aussi un rapport, il y a quelques semaines, Dominique Estrosi-Sassone et Madame Gacquer, disant que peut-être il fallait déporter l'obligation 2025 à 2028. J'ai vu que dans les programmes, justement, différents candidats aux législatives, il y avait des choses dans ce sens.
On va rentrer dedans, parce que du coup, l'état du marché locatif dépendra aussi de ceux qui nous gouverneront demain, et ils ont pour certains des programmes, justement comme on parle des passoires thermiques, l'une des propositions les plus, j'ai envie de dire les plus trash, parce qu'elle peut bouleverser le secteur, c'est celle du Rassemblement National qui dit faut revoir, supprimer le calendrier passoire.
Oui, alors ils veulent pas le revoir, ils veulent, si j'ai bien compris, supprimer les interdictions de mise en location. Bon, faut être assez prudent quand même.
Ils veulent le voir partir.
Il faut être assez prudent parce que y a une perspective, une trajectoire qui est donnée. Il faut apporter de la souplesse, il faut donner peut-être des moyens supplémentaires, pas forcément financiers, qui peut être plutôt réglementaire parce que les finances publiques sont contraintes. Et donc, d'annuler tout bonnement le calendrier, ça ne nous paraît pas très clair. Et puis, ça vient remettre en question tout ce qui a été entrepris les investisseurs,
ceux qui ont déjà fait les travaux.
Dans les copropriétés, des objectifs qui sont là pour emmener des immeubles entiers dans des rénovations globales, je ne pense pas que ce soit le meilleur symbole. En revanche, ça met le doigt peut-être sur une chose qui est intéressante, c'est de dire il ne faut pas interdire la location, ou en tout cas pas tout de suite pour le parc locatif qui a besoin d'offres, beaucoup plus d'offres, et pour ça, il faut à mon sens réanimer le parcours logement, c'est quelque chose d'un peu plus large, entre celui qui rentre dans un logement social, celui qui accède à la propriété de manière sociale ou normale, qui sort du parc locatif. Et s'il y a du mouvement, ça permet de développer de l'offre.
Fluidifier le marché.
De fluidifier. Et il y a différentes méthodes, sur les droits de mutation, pourquoi pas, la taxe foncière.
Alors les droits de mutation, on va juste passer, enfin, à chaque fois que vous allez me parler d'une des propositions, il faut quand même que je réexplique. Sur les droits de mutation, donc on parle des fameux frais de notaire, je mets de gros guillemets si vous ne me voyez pas, vous m'écoutez à la radio. C'est donc la proposition de Gabriel Attal et de la majorité sortante de supprimer les frais de notaire, en l'occurrence les droits de mutation, la partie qui va aux collectivités locales, pour les primo-accédants jusqu'à 250 000 euros d'achat. Vous pensez que ça, c'est quelque chose qui est de nature à relancer la fluidité du marché ?
Alors, on va surtout dire que c'est une inégalité devant l'impôt, comme le rappelle régulièrement Nicolas Dose, et qu'a priori, ça ne verra pas le jour, cette idée.
Et qu'en plus de ça, ça aurait un effet inflationniste sur les prix, puisque les vendeurs pourraient tenter d'augmenter leurs tarifs. Et qu'en plus de ça, les collectivités locales risquent de ne pas être très, très contentes, parce que c'est à l'État que revient le droit, après, derrière, de rembourser les collectivités locales.
Oui.
Pas sûr qu'elles le fassent en temps et en heure, comme le font à date les notaires.
Pierre, votre regard.
Oui, j'achète le symbole. J'achète l'idée qu'il faut permettre aux gens d'accéder à la propriété, qui est la première étape de la sortie du parc locatif, qu'il soit social ou privé. Et donc peut-être d'autres mesures peuvent être prises. Moi, je pense notamment à l'imposition des plus-values. Il y a de nombreux logements qui ne sont pas mis en vente, qui ne sont pas sur le marché à la vente. Et le marché de la vente souffre aussi ces dernières semaines, ces derniers mois. Et bien sûr, l'imposition des plus-values, d'être monté à 30 ans, avec un impôt sur le revenu plus une CSG, c'est un effet de rétention beaucoup sur le marché.
C'est ça, vous voulez dire que la fiscalité incite à la conservation plutôt qu'à la vente.
Exactement. Et donc, on était à 15 ans, peut-être qu'il faut trouver un modus operandi, peut-être baisser drastiquement le montant, mais d'arrêter la suppression pour durée de détention. Et ça permettrait à des gens de remettre effectivement des biens sur le marché. Et pour le coup, ça fait gagner des droits de mutation. Donc, ce que potentiellement, on pourrait éventuellement perdre, mais ça se modélise et ça se calcule sur l'imposition des plus-values, que de toute façon, on n'encaisse pas parce que les ventes sont bloquées. Se récupérera sur les droits de mutation, justement. Et donc, les départements sont très contents.
Pierre, c'est votre proposition. On est d'accord que ça ne figure dans aucun des programmes des trois blocs en présence.
Non, mais ça n'empêche pas de porter des choses.
D'accord, mais je tiens juste au cas où il y a beaucoup de gens très enthousiastes à nous écouter. Voilà.
Quelle que soit la majorité ou l'absence de majorité qu'il y aura dans quelques semaines, nous continuerons de porter nos idées sur la rénovation énergétique en étant équilibrés dans les interdictions, en favorisant les rénovations globales à l'échelle de l'immeuble avec le DPE collectif, par exemple. Bon, je fais mon marché, hein, là. J'annonce un peu de choses. Et donc, ça va perdurer. De toute façon, là, la campagne était tellement courte qu'il a bien fallu prendre des choses symboliques, j'imagine, selon les différents partis. Et donc, on continuera de discuter, je l'espère, avec des gens raisonnables.
On a parlé de la proposition du RN sur les passoires thermiques. Je dis d'un mot que ni le nouveau Front Populaire, ni Ensemble ne veulent revenir sur le calendrier et les obligations de rénovation. Juste, on va voir les autres propositions pour ce marché locatif. Alors, pour le coup, elles nous viennent essentiellement de la gauche, avec une hausse, par exemple, de 10% des APL. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi une bonne solution?
Vous parliez d'effets inflationnistes. Effectivement, les APL sont réputés aussi avoir parfois un effet inflationniste.
Sauf
donc,
qu'ils
faut
ont baissé 10% sur 7 ans et je n'ai pas vu les loyers baisser, moi.
Il faut être prudent.
Je veux dire que
détermine
si
le prix,
les loyers ne baissent pas, mais s'ils remontent, les loyers vont forcément augmenter.
C'est un risque. C'est un risque. Je ne pense pas que ce soit la première des choses à opérer. Je pense que je parie davantage.
Ça ne peut pas resolvabiliser tout un tas de locataires, selon vous?
Je pense qu'il faut davantage miser sur la fluidité du marché et le développement de l'offre locative, d'une offre locative de bonne qualité, énergétique, mais pas que, de lutter contre les passoires carbone, si on peut les appeler comme ça, parce que passoire thermique, c'est pas forcément ce qui est le plus adroit de dire. Et donc, j'ai vu ces choses-là, c'est aussi adjoint avec un blocage des prix, avec un encadrement des loyers quasi généralisé.
À toutes les zones tendues, mais c'est ce que voulait la loi Allure au démarrage, on le rappelle, c'était pas un encadrement des loyers.
Bon, on est sur des choses un peu anciennes qui n'ont pas forcément fait leurs preuves. C'est une expérimentation qui a besoin d'une
la garantie
d'une
universelle des loyers, quand même. C'est pas, enfin, pardon, hein, mais pour le coup, Visale que le gouvernement actuel a beaucoup, dont le gouvernement actuel a beaucoup fait l'apologie, et ils ont raison, hein, pour le coup, ça marche bien.
À raison, oui.
À raison, voilà, qui est financé par Action Logement, je crois.
Oui.
Il permet quand même d'assurer contre les impayés de loyers tout un tas de propriétaires. Le truc, c'est tous les locataires ne sont pas éligibles, même s'ils sont de plus en plus nombreux, oui, à Visale. Est-ce que cette garantie universelle des loyers que promet la gauche, ça peut pas être aussi une solution, en fait?
Oui, alors il faut saluer le travail d'Action Logement, hein, qui a... En 2016, a lancé cette garantie qui était ce qu'elle était, et elle s'est considérablement améliorée, elle s'est considérablement élargie. Action Logement, je rappelle que le financement, c'est les entreprises, c'est la participation des entreprises à l'effort de construction, qui viennent aider les salariés à se loger, notamment. Je suis pas certain qu'il faille uniformiser, universaliser ce dispositif qui est bien en place, qui fonctionne. Je pense qu'il faut pas trop le déstabiliser. À chacun son offre, à chacun sa capacité à trouver le bon produit. Il y en a plein, des produits de sécurisation des loyers.
Oui, mais celui-là, il a l'avantage d'être gratuit pour le locataire et le propriétaire.
Oui, c'est en tout cas financé par. Et effectivement, le risque de l'étendre à tout le monde, c'est de le faire disparaître. Je suis convaincu de cela. Je pense qu'Action Logement, je crois, tient aussi cette position. Ne venons pas déstabiliser quelque chose qui a été largement ouvert, qui fonctionne bien, qui s'adresse à un public bien précis, qui l'apprécie. Il y a d'autres dispositifs de sécurisation des loyers et je ne suis pas certain que ce soit le problème numéro un dans le monde locatif privé.
Oui, parce qu'on rappelle seulement 1% d'impayés sur le marché locatif.
Oui, 1% durable. Et ce qui pose problème dans ces cas-là, c'est davantage la lenteur de la justice, la possibilité de reloger les gens,
cas qui existent
de ne pas
même,
les laisser dans un logement dans lequel ils ne peuvent pas payer le loyer, ils ne reprendront pas le paiement des loyers. Et donc de trouver des solutions rapides pour le locataire comme pour le propriétaire, qui c'est pas des pétroliers, les ouais. propriétaires, c'est des investisseurs, ils ont des échéances à rembourser, des charges, des impôts à payer. Donc parfois, ça a un effet délétère. C'est un peu le mauvais...
Je vais retenir cette expression, votre parole est cousue d'or.
Le mauvais cas qui fait tache d'huile après.
Il reste moins de deux minutes. Je sais que quand on a préparé cette émission, vous m'alertiez sur le fait que c'est moins les programmes qui vous inquiétaient que l'évolution des taux d'intérêt.
Oui, et en cela, sur les taux d'intérêt, bon, on a eu une petite bonne nouvelle la semaine dernière. On a vendu notre dette de manière assez simple, donc assez simple. je mets des guillemets. On a vendu notre dette sur les marchés financiers
sans
grande difficulté. Voilà, on aura une deuxième phase juste après, je crois, le deuxième tour des élections législatives. Il y a deux impacts. Il y a le premier impact, c'est sur les finances publiques. Si notre dette coûte plus cher nécessairement, dans le budget global, il va falloir abondé pour le paiement de cette
quand
dette.
Quand on dit notre dette, on parle de la dette de l'État français.
La dette de l'État français, pardon, oui. On aura plus de mal à boucler le budget, donc on va aller couper dans certaines dépenses. L'histoire montre que l'immobilier, soit on coupe des dépenses, soit on augmente les impôts, soit on fait les deux.
Ouais.
Et donc c'est ce qui pourrait paraître inquiétant. Et puis, il y a aussi un impact sur les taux d'intérêt avec les taux directeurs de la BCE, dont la bonne nouvelle était arrivée sur une baisse, qui n'était pas pérenne, mais il y avait une baisse qui était annoncée, et donc un retour et une bouffée d'oxygène qui pouvait se donner auprès des investisseurs. Bon, tout n'est pas catastrophique, je pense pas que au lendemain des législatives, ça va être la catastrophe sur nos dettes, faut pas être l'oiseau de mauvais augure. L'immobilier, c'est le temps long, ce sont des investisseurs qui investissent sur une longue période, avec une perspective large, notamment pour l'investissement locatif, mais aussi quand on habite pour soi-même, on achète pour soi-même, pardon. Il ne faut pas paniquer, mais il faut être vigilant. Peut-être qu'il faut enclencher un certain nombre de projets assez rapidement pour bénéficier effectivement de taux légèrement allégés. Ce qui est sûr, c'est que quand on
vous
a
pensez au prêt à taux zéro, par exemple.
Oui, le prêt à taux zéro, moi j'y crois beaucoup, surtout pour le financement de la rénovation énergétique en copropriété. Le prêt à taux zéro, rénovation, copropriété, ça c'est un bon dispositif qui je pense, va se déployer. Et les banques semblent s'en saisir, et donc ça c'est très bien quand on s'endette d'ailleurs globalement au niveau de la copropriété. Le prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété, pourquoi pas, etc. Mais ce qui est important, c'est que les taux durablement restent un peu dans une perspective de légère baisse, ou en tout cas
se stabilise.
Si ça pouvait descendre avec une baguette magique autour de 2,5%, ce serait rassurant pour les investisseurs. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on a une bonne occasion d'acheter un bien, un immeuble, une maison, c'est le prix qui est important. Le taux, on pourra toujours le renégocier dans quelques années. Et donc, on aura bénéficié à la fois d'un bon taux dans le futur et d'un bon prix au moment de l'achat. Et celui-là, il ne bougera pas.
Attention au taux d'intérêt de la dette qui pourrait influencer à terme les taux immobiliers. Mais aussi le budget du futur gouvernement, de la future majorité, s'il y en a une, et qui, ultimement, nous affectera aussi sur tous les chantiers de la rénovation et le budget qui sera consacré au logement, finalement. Ce sera ça la conclusion, Pierre, n'est-ce pas ?
Oui.
Pierre Autus et sa parole cousue d'or. Je retiendrai, on va la ressortir, que les propriétaires ne sont pas des pétroliers. Parce qu'on a beaucoup de propriétaires bailleurs qui
sont des pétroliers notoires.
Non, qui nous remercient de porter la parole des propriétaires bailleurs.
On rappelle, sans eux, il n'y a pas de locataires.
Absolument. Des crises du marché locatif qu'attendent de cette période trouble. Voilà, Pierre Autius et Plurian Séclameur ont quelques idées. Cette séquence, c'est à retrouver en podcast et en replay. Excusez-moi, j'avais le nez plongé dans mon téléphone parce qu'on reçoit beaucoup de messages d'auditeurs, notamment pour cette séquence immobilier. Et je voudrais finir avec un message de Michel qui nous suit régulièrement, Michel P, qui nous dit, au-delà d'un calendrier inscrit dans le marbre, une des solutions, en parlant du DPE, n'est-elle pas l'harmonisation fiscale pour dégripper le marché ? Eh bien, Michel, on répondra, on alimentera notre émission de demain avec votre question. Et puis, je pense que Pierre, vous avez apporté quelques éléments déjà d'éclairage à notre auditeur. Pierre Autius, délégué général de Pluriance et Clameur. À suivre une toute petite pub et après on s'occupe de vos finances personnelles et on s'occupe d'économie bleue puisqu'on va réfléchir comment miser sur la thématique de l'économie bleue à travers les ETF, à travers les trackers, vous savez. Cet objet financier qui nous occupe le jeudi à 11h30, toutes les semaines pour investir. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On s'occupe de vos finances personnelles dans cette émission. En direct tous les jours, un rappel rapide des actualités que j'ai retenues pour vous ce matin. Et puis après, on s'occupe de parler d'ETF, comme tous les jeudis. Un petit mot du private equity qui attire des grands noms du côté de l'Inde, avec des rendements assez élevés. Il y a eu quelques faux pas initiaux, mais ça y est, les entreprises injectent des dizaines de milliards de dollars en Inde. Évidemment, grosse croissance économique, réservoir de talents infini et puis des réformes réglementaires qui facilitent les affaires. L'Inde est devenue un point d'attractivité pour les sociétés de PE et vient concurrencer évidemment la Chine dont l'intérêt faiblit. Je vous donne un exemple. Blackstone indique que l'Inde est désormais son troisième plus grand marché d'investissement après les États-Unis et le Royaume-Uni. Je continue de vous emmener à l'étranger pour vous changer les esprits de l'actualité française et européenne. Le yen du côté Japon qui retrouve une certaine stabilité après avoir chuté hier mercredi à son niveau le plus bas depuis 1986. Ça a alimenté pas mal de spéculations sur une possible intervention des autorités pour soutenir la devise, mais on peut s'attendre à ce que la chute du yen ne s'arrête pas tant que la Fed continue à maintenir sa politique de taux élevés. Des perspectives un peu meilleures pour les banques américaines. Je vous cite les profits de Jefferies Financial Group qui ont augmenté, portés par une hausse des revenus de la banque d'affaires, plus 59% au deuxième trimestre. Ce sont des résultats qui indiquent une reprise de la demande pour les services des banques d'investissement, alors que les préoccupations géopolitiques et les taux d'intérêt élevés, évidemment, ont freiné l'activité des transactions. De plus, ces résultats coïncident avec le succès des stress tests de la plupart des grandes banques américaines. Un mot des chiffres qu'on surveille aujourd'hui. Évidemment, il y aura les jobless claims, le core PCE, à ne pas confondre avec le PCE de demain, les biens durables côté Amérique, et puis évidemment le PIB américain qu'on surveillera, que l'équipe BFM Bourse surveillera attentivement dès 15h30 sur notre antenne en direct. Un mot d'un article à retrouver sur notre site web qui pourrait vous intéresser. C'est Julien Marion de l'équipe BFM Bourse qui signe un article sur Sanofi. Et si Sanofi ne passez pas par la bourse pour vendre son pôle de santé grand public. Vous avez suivi que le groupe pharmaceutique a appelé à des marques d'intérêt pour la cession de son pôle santé grand public. C'est une opération qui serait menée en parallèle de l'étude d'une potentielle IPO, d'une potentielle introduction en bourse pour cette même division. Tous les détails sur notre site web signé Julien Marion. À suivre. On s'occupe d'ETF, on s'occupe de tracker. C'est jeudi dans Tout pour investir.
Tout pour investir sur BFM Business.
Les ETF le jeudi, c'est aujourd'hui avec l'équipe de BNP Paribas Asset Management. Bonjour Lorraine Cérejol-Garros.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes responsable du développement des ETF pour cette banque française. On est avec vous pendant un petit quart d'heure pour faire le point sur un ETF que sans doute vous connaissez tous. On va l'appeler, on va le décrire, on va se raconter ce que c'est. On parle de l'ACWI, on parle de l'ETF ACWI, pour ceux qui les lisent. All Country World, on va s'arrêter sur cet indice et savoir ce qu'on en fait quand on a envie d'utiliser les ETF pour miser dessus. Un petit peu de pédagogie pour notre audience très diverse, chère Lorraine. Que faut-il retenir sur cet ETF ?
Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être définir ce que c'est qu'un ETF. Donc c'est un fonds qui est coté en continu sur une bourse, en l'occurrence à Paris, sur Euronext Paris. L'objectif de l'ETF traditionnellement, c'est de répliquer un indice de marché. Dans le cas de l'ACWI, c'est de répliquer un indice All Country World, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire tout pays. C'est-à-dire que ça donne accès à la fois aux pays dits développés, mais aussi aux pays émergents. Vous parliez tout à l'heure de la Chine, de l'Inde, la Corée du Sud, par exemple. Donc, en une seule transaction, l'investisseur a accès à une diversification géographique complète.
Est-ce que ça marche, une diversification, quand on met un peu tout dedans?
Oui, ça marche même très bien, en tout cas sur le long terme.
Donnez-nous quelques chiffres.
Ça évite, alors j'ai pas les chiffres en tête récents, mais ça évite en tout cas sur le long terme d'être exposé à des marchés trop restreints, où on peut avoir un risque effectivement de sous-performance.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la pondération à l'intérieur de cet indice ACWI entre les pays développés et les pays émergents?
Alors grosso modo, c'est 12% d'émergents et donc 88% de pays développés, ce qu'on retrouve dans un indice world, donc c'est-à-dire monde classique.
Pour les épargnants, les investisseurs qui nous écoutent, est-ce que c'est un indice qu'il faut à tout prix suivre, et pourquoi le suivre à l'aide d'un ETF? Ou alors, d'ETF au pluriel.
À tout prix suivre, oui, parce que c'est une exposition globale à tous les marchés mondiaux. Donc, ça permet de bénéficier potentiellement des opportunités de croissance sur le long terme, d'où l'intérêt d'avoir cette diversification. Mmh. Et c'est un des gros avantages, justement, de passer par un ETF, puisqu'en une seule transaction, vous allez être exposé à toutes ces grandes capitalisations de pays développés ou émergents. Pourquoi passer par un ETF? L'aspect, effectivement, simplicité, l'aspect diversification, l'aspect aussi coût qui peut être intéressant.
Un inévitable d'un portefeuille. Est-ce que vous pouvez nous dire comment techniquement on peut acheter ou se positionner sur ACWI, sur cet indice, et quel est, dans le contexte actuel, comment on peut parler de cet indice et des ETF? Est-ce que dans un monde, je vous phrase un peu cliché, voilà, beaucoup d'élections en ce moment, un risque géopolitique sur l'ensemble du globe, est-ce que c'est un indice qu'il faut particulièrement suivre en ce moment, et que dit-il de l'état de notre économie?
Alors, c'est un indice qu'il faut suivre en ce moment parce qu'effectivement, comme il offre cette diversification, il est moins sujet à ce qui se passe au contexte géopolitique en France et en Europe, d'où l'intérêt d'être exposé sur tous ces pays. Donc ça, c'est très intéressant. Un autre facteur, vous posiez la question de l'intérêt pour un investisseur. Ce type d'exposition, ça, via les ETF, ça intéresse à la fois les particuliers pour se construire un patrimoine de long terme, mais aussi les investisseurs professionnels. Et d'ailleurs, pour parler un peu d'actualité, si on regarde les chiffres au premier trimestre, pour la première fois en Europe, on a cassé le million de transactions sur les ETF listés en Europe. Donc un fort engouement pour l'instrument ETF.
Les ETF, c'est votre métier depuis un moment. Vous chapeautez l'équipe de BNP Paribas Asset Management dédiée à ces indices, à ces fonds indiciels. Qu'est-ce que l'année 2024, si on prend un petit pas de côté, je profite de vous avoir en plateau, dit de l'intérêt que portent les Français et les Françaises à ces ETF?
Sur 2024, un intérêt fort, parce que les statistiques que je vous ai données sur le nombre de transactions, c'est en Europe, mais c'est ce qu'on constate aussi en France. Il y a eu des chiffres de l'AMF qui ont été publiés. On n'a jamais, enfin, il n'y a jamais eu autant d'investisseurs particuliers qui traitent en direct des ETF. On voit un engouement des jeunes générations, les millénials, qui ont pris l'habitude de traiter via des plateformes, notamment sur les ETF durant le Covid. Donc, c'est vraiment une forte demande de la clientèle particulière. Alors que ça avait été adopté très tôt, en fait, par les clients professionnels.
Ouais, ça fait quoi, 20, 30 ans?
Oui, 30 ans maintenant. On a fêté les 30 ans du premier ETF, effectivement.
Comment se porte la France en termes d'intérêt pour les ETF par rapport au reste de l'Europe?
On est, alors, selon les classements, le deuxième ou le troisième marché européen, derrière la Suisse et l'Allemagne.
En croissance,
en intérêt croissant. Et en forte croissance.
Est-ce un sujet qui intéresse de plus en plus d'investisseurs? On va tenter de parler écologie et de combiner le terme écologie avec tracker. Car oui, c'est possible de miser sur cette thématique, on va appeler ça blue economy. Racontez-nous ce qu'on peut faire quand on est un investisseur intéressé par les ETF et par cette thématique écologie avec des gros guillemets, en particulier tout ce qui est blue economy. Donc on va plutôt parler de l'univers de la mer et des océans.
Oui, tout à fait. Alors, cet ETF, il fait partie de ce qu'on appelle les ETF thématiques. On a parlé de l'ETF ACWI, donc là, on est sur des grandes capitalisations, un indice, en fait, qui est pondéré par le poids des grandes capitalisations sur des pays développés et sur des pays émergents. Là, on rentre sur l'aspect ETF thématique et c'est un autre aspect de diversification. Mmh. Là, on ne va pas être sur un indice qui est pondéré par le poids des capitalisations, mais on va être sur des valeurs qui sont en ligne avec nos propres valeurs en tant qu'investisseurs. Ça peut être des sujets santé, des sujets éducation ou des sujets environnementaux comme le Blue Economy. Donc Blue Economy, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'économie des océans. Alors les auditeurs ou les téléspectateurs l'ont peut-être pas en tête, mais les océans, ça représente 50% de l'oxygène que nous respirons et ça capte 30% des gaz à effet de serre que nous émettons. Donc, préserver les océans, c'est vraiment un enjeu important, pour, notamment pour le changement climatique.
Mais comment on concilie une envie de rendement et l'envie de sauver le monde et la planète avec quel horizon d'investissement peut-on faire ça?
Alors, c'est des horizons long terme. Là, sur l'ETF Blue Economy, on va investir sur des grandes capitalisations mondiales.
Vous pouvez nous donner des exemples?
Dans des secteurs. Alors, ça peut être des sociétés dans le secteur maritime, typiquement le transport maritime. Ça peut être des sociétés dans le secteur agroalimentaire, donc tout ce qui est pêche, pisciculture, aquaculture. Ça peut être aussi le secteur des énergies renouvelables, donc tout ce qui est les énergies éoliennes provenant de la marée ou des vagues. Donc on a une cinquantaine d'entreprises sur ces différents secteurs. Là, on n'a plus une diversification multisecteur, mais on va se focusser effectivement sur des secteurs en lien avec la thématique. Et ce sont des entreprises, en fait, qui sont bien positionnées pour bénéficier des ressources océaniques et créer de la valeur sur le long terme, tout en préservant les océans.
Quelle est la place de l'Europe ou des entreprises françaises à l'intérieur de cette thématique?
Alors, on est à peu près sur des niveaux de 10%, puisqu'on a des grands transporteurs maritimes, notamment en France. On a une pondération qui est assez forte sur les pays asiatiques, du fait de la thématique océan, de la pêche notamment, de l'aquaculture, des transports également.
Bon, ce qui nous intéresse, c'est évidemment de concilier une envie de rentabilité, on va dire, avec des thématiques ESG. Comment, dans un contexte économique et politique, tendu, les sujets ESG, les sujets environnement, notamment, s'en sortent?
Alors, ils s'en sortent plutôt bien. Il y a deux choses à considérer. Il y a d'abord l'aspect risque. Quand vous investissez sur des produits dits ESG Sustainable, il y a des critères en fait, de sélection des sociétés sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, une fois que les entreprises ont passé ces critères, en général, elles sont plus solides et vous avez moins de risques d'investir sur un titre à controverse. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est diminution du risque au niveau de votre portefeuille. L'autre aspect, on parlait de Blue Economy, c'est d'investir sur des entreprises qui sont vraiment positionnées pour bénéficier des méga-trends, des méga-tendances actuelles. Et donc là, on a un potentiel de croissance sur le long terme.
Question toute simple, quand on est investisseur novice, mais qu'on investit avec le cœur, si possible aussi un peu avec sa tête, qu'on a envie de se positionner sur une thématique Blue Economy, qu'est-ce qu'on met en face pour diversifier son portefeuille?
Alors, sur Blue Economy, vous avez des expositions sectorielles assez fortes sur cet ETF thématique. Il y a certains ETF thématiques également qui sont plus diversifiés en termes de secteur. Je peux citer par exemple l'économie circulaire, qui est aussi une thématique très intéressante. On a un ETF économie circulaire depuis 2019 qui fait plus de 1 milliard maintenant d'encours. Et là où on a une répartition sectorielle plus en ligne avec les indices grande capitalisation. Donc sur le Blue Economy, c'est bien d'adjoindre des ETF thématiques avec des ETF traditionnels en fait qui répliquent plus largement les indices. Toujours dans un souci de diversification.
Question technique, on est suivi en direct par nos auditeurs qu'on salue. J'ai Vincent qui me demande sur LinkedIn quel est l'encours minimum qu'il faut avoir en tête pour miser sur un ETF. Est-ce que, là, vous venez de nous citer 1 million d'encours pour cet ETF économie circulaire. Est-ce qu'il y a un niveau d'encours en dessous duquel vous ne recommandez pas aux investisseurs particuliers d'aller?
Alors, sur cet ETF, on a 1 milliard.
Donc, 1 milliard, j'ai dit 1 million, pardon. Oui, 1 milliard.
Alors, ce qu'il faut voir quand on investit sur un ETF, ce qui compte, c'est la liquidité du sous-jacent et de l'indice. Donc, quand on investit sur un indice qui représente, en fait, l'économie mondiale, il n'y a pas de minimum à considérer. Dans la réalité des faits, à partir de 50 millions d'encours sur un ETF, on a quelque chose qui est totalement diversifié et avec un risque vraiment petit.
50 millions d'encours, un minimum, on va dire, pour envisager un ETF. Quelles sont les thématiques que vous anticipez? On parlait de méga-tendances. Est-ce qu'on peut imaginer, déjà, on n'a pas de boule de cristal, mais qu'est-ce que vous anticipez comme thématiques qui vont être soit sous la lumière médiatique, soit vraiment d'intérêt financier dans les prochains mois. En admettant que la situation géopolitique reste compliquée, que les sujets d'écologie soient toujours au centre de la table, est-ce que, pour le dire très simplement et excusez ma simplicité, des ETF sur les valeurs d'armement et, par exemple, cette thématique Blue Economy sont des sujets qui vont continuer à porter?
Alors, ça peut être très complémentaire hein, pour les thématiques que vous citez. Sur les thématiques vertes, en fait, on est vraiment sur de l'investissement long terme. Et la visée pour l'investisseur doit vraiment être un horizon long terme.
Qu'est-ce que c'est long terme à votre
sens? Long terme, c'est 5 ans et plus. Hein. Donc, sur le Blue Economy, l'importance des océans, elle ne va pas être mise en cause demain. Donc, on peut continuer à investir. Après, on peut être un peu plus tactique sur, effectivement, des thématiques qui sont plus liées à l'actualité à court terme. Alors, je pense aux infrastructures, par exemple, parce que même si on est dans une situation géopolitique un peu compliquée en France, il y a quand même des choses qui ont été faites au niveau européen et au niveau mondial avec le Green Deal. Et donc, on sait qu'il va y avoir un afflux d'investissements sur les infrastructures. Il va y avoir, du coup, un renchérissement des valeurs. Donc, ça peut être intéressant. Des choses comme l'infrastructure. On peut penser aussi à des ETF sur l'hydrogène. Donc, tout ce qui est nouvelle énergie, avec les tensions géopolitiques qu'on a actuellement sur les énergies fossiles.
Intéressant. Ces méga tendances, évidemment, sur lesquelles on peut miser grâce aux ETF. Merci beaucoup, Lorraine Cérejol, d'avoir été avec nous. Vous êtes responsable du développement des ETF à BNP Paribas Asset Management. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application d'ici quelques minutes. Les ETF font l'objet de cette séquence hebdomadaire le jeudi à 11h30. Et puis, vous le savez, à n'importe quelle heure, en replay, en podcast sur notre site. C'est bientôt la fin de Tout pour investir. Mais ça n'est pas la fin de nos programmes, puisque Sandra Gandoin va prendre les manettes d'avec vous d'ici quelques minutes. Elle est déjà là. Bonjour Sandra. Quel est le programme de l'émission?
On va répondre à toutes vos questions, comme tous les jours, vos questions sur la vie en entreprise, entre midi et 13h avec nos experts. Par exemple, avez-vous réussi à obtenir une augmentation plus importante que vos collègues? Ça, faut parler d'argent en entreprise, c'est pas gagné. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour avoir plus de clients? Comment ne pas trop subir, ses collègues dans l'open space? Et quels sont mes recours, par exemple, si je suis discriminée ou harcelée en entreprise? Bref, ce genre de questions, mais vous pouvez nous écrire à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Vos questions, on les reçoit pendant l'émission. On y répond pendant l'émission également, dès qu'on peut. Et vous êtes les bienvenus, évidemment.
On s'occupe de votre open space sur BFM Business ce midi dans l'équipe d'avec vous. C'est aussi en direct sur les réseaux sociaux, vous l'avez entendu. Nous serons là demain, parce que c'est presque la fin de Tout pour investir. Merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission. Merci aussi à vos messages. Vous continuez à nous écrire. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route, pas de panique, parce qu'elle est déjà disponible en replay et en podcast. On se revoit demain pour attendre un petit peu plus le PCE ensemble. Ce sera l'indicateur qu'on suivra vraiment demain. On sera en direct dès 10h. Le vendredi, on parle crypto. Le vendredi, on parle immobilier. Et puis, nous allons évidemment continuer à vous éclairer en ces temps politiques un petit peu troubles. Je vous précise que d'ici 14h, nous serons en direct sur le site web de BFM Business pour suivre en direct un événement qui se passera du côté de Paris. Nous serons avec l'équipe d'Ocur qui organise sa rencontre quotidienne aujourd'hui. Les rencontres Ocur, ça se passe à Paris. Émission spéciale dès 14h. Stéphane Frag, qui est le CEO d'Ocur, est avec nous pour raconter un petit peu ce qu'on va se dire cet après-midi. Bonjour Stéphane. Stéphane est déjà sur un fond vert magnifique. Racontez-nous ce que vous allez faire aujourd'hui à la rencontre Ocur, de quoi on va parler et qui va être au cœur des discussions.
Alors c'est vrai que c'est la 4e édition de la rencontre Ocur, donc on a le plaisir de te retrouver, Lorraine, cet après-midi. Donc en fait, là, c'est un rendez-vous majeur de la gestion de patrimoine où en fait, on a tous les acteurs de l'écosystème qui se rencontrent. Donc, ce sont donc les CGP, les family office, les sociétés d'investissement, les sociétés d'assurance vie, les avocats, les notaires, les experts comptables. Et donc, l'objectif, c'est de faire un point sur l'actualité, économique, un point sur les investissements. Il y a des prix et donc des pitchs. Donc, on a eu 60 personnes qui ont pitché ce matin avec 10 catégories, une remise des prix ce soir à 19h, 3 ateliers thématiques qui vont parler d'impact, d'investissement coté versus non coté et où des perspectives du monde de la gestion de fortune, parce que c'est un monde qui bouge beaucoup, des activités ludiques et une soirée jusqu'à très tard dans la nuit. Et on attend, on a 750 inscrits, Donc ça s'annonce, c'est une belle journée, on a de la chance d'avoir un peu de soleil. Donc je vous ai mis un fond assez joli, ça nous fait du baume au cœur de voir un peu de soleil et un peu de verdure.
Ça se passe du côté du Pavillon Royal à Paris, je vous l'ai dit. Exactement. On sera en direct pour une sorte un peu de spin-off de Tout pour investir là-bas pendant une heure de 14h à 15h à la rencontre des acteurs de la finance. Plutôt un rendez-vous B2B, on continuera à discuter des environnements de crise et surtout des opportunités d'investissement. On a prévu de parler de bons conseils de gestion, plutôt B2B, mais ça intéressera aussi nos auditeurs B2C, évidemment, pour comprendre que faire avec son argent dans ce contexte complexe. Mais c'est pas la première fois qu'on évolue dans un contexte complexe. Un mot, Stéphane, peut-être pour finir, sur l'état d'esprit dans lequel vous organisez ces rencontres. On n'avait pas forcément anticipé, voilà, d'être à la veille d'élections législatives, etc. Ouais. Quel est le mood, quel est le moral des professionnels du monde de la finance qui vous entoureront cet après-midi?
Alors c'est vrai que c'est un moment qui est assez compliqué, hein, donc ça vous venez de le dire. Donc en fait, c'est moi je trouve que même si l'environnement est difficile, c'est là que s'expriment tous les experts que l'on a et qui sont là pour accompagner, dont vous parliez, de B2C, de clientèle privée. C'est tous ces experts là qui sont là justement pour agir dans des moments où c'est plus complexe. Donc mais écoutez, c'est la température, on va dire, est modérée. On attend des choses. Dimanche va donner des premières informations. Le second vote après, mais c'est vrai que c'est pas un environnement facile. Mais la finance, de manière générale, n'est pas facile. On est dans un monde qui fluctue beaucoup. Donc, moi, je suis content qu'on ait autant d'experts aujourd'hui qui vont pouvoir donner plein de réponses à tous ceux qui se posent beaucoup de questions.
Voilà, vous avez des questions, on aura sans doute des réponses cet après-midi à la rencontre au CUR. Et pour vous qui n'y serez pas, ça se passera en direct dès 14h sur le site web de BFM Business. Émission spéciale depuis le Pavillon Royal, événement B2B. Bon, pour faire quoi? Pour favoriser les échanges entre les investisseurs professionnels. Rendez-vous à 14h sur notre site web. Et cette émission sera également diffusée sur nos antennes radio-télé ce week-end. Cher Stéphane Frag, patron d'au CUR, à tout à l'heure. Chers auditeurs, je vous dis à demain. Je vous confie à l'équipe de Sandra Gandouin et toute l'équipe d'Avec Vous qui aura aussi des réponses à vos questions. On vous emmène dans votre open space dans quelques minutes. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.